entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Beketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 9 janvier 2002 de 18 à 21h, en différé jeudi 9 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Reconquête, bonsoir.
Reconquérons.
Comme la lune, voilà, merci. Merci, envie de faire ça. Bonne année, merde à l'euro. Ah mais non, comme il y a des enfants, je voulais dire zut à l'euro.
Merde à l'euro. Ah bah, à l'euro.
C'est à partir de 21h. Donc on fait le clan de la presse. Ensuite, je recevrai le docteur Plantet, que vous avez peut-être entendu parler de.
Mais on est très content.
Et puis l'abbé Cellier, que vous connaissez aussi, je pense. Mais avant le clan de la presse, je voudrais donner la parole à trois amis qui ont des annonces à faire. Alors, tout seigneur, tout honneur, docteur Dor, dans quel but allez-vous encore mobiliser les foules?
Voilà. Alors, en janvier, donc, le 12 janvier, nous sommes aujourd'hui le 10. Le 9, pardon, dans 3 jours, samedi, à 14h, c'est toujours pareil, ça va être la 52e fois, je ne compte plus maintenant.
Je finirai par aller en prison.
À Jeanne d'Arc, donc métro Porte d'Ivry, au coin Château des Rentiers et rue Regnault. Et au même moment, à 14h30, alors à Dijon, c'est tous les deuxièmes samedis du mois, devant l'hôpital du Bocage. Et alors le même jour, mais un peu plus tôt, à 10h45, devant la mairie à Maison Lafitte. Il y a un groupe qui se forme, qui se constitue, qui grandit, et nous en sommes très heureux. Et alors, je vous signale, ça c'est une annonce importante, à mon sens, c'est qu'il y a plus de 4 ans que nous n'y avons pas été, c'est Versailles. Nous irons non pas à Versailles même, mais tout à côté, à l'hôpital donc de André Mignot, du Chesnay. Ce sera à 14h30 et ceci le 26. Donc le samedi 26 à 14h30 au Chesnay, devant André Mignot.
Là, vous connaissez bien Versailles, vous, c'est là que vous avez été.
J'ai été souvent
envoyé dans les geôles de la République.
C'est très curieux, je crois que le tribunal de Versailles, les gens sont très agréables à Versailles, mais ce sont les tribunaux qui sont moins commodes. Enfin, on verra bien, bon. N'est-ce pas? Et alors, je vous dis
orange quand même, ou pamplemousse plutôt?
Là, je ne sais pas ce que le choix des.
Mandarine.
Pas le choix, mandarine.
Clémentine.
Ils viennent de Saint-Quentin, ils viennent de Jussieu, ils sont quelquefois. Enfin, il faut faire attention quand même.
C'est des mauvais fers.
Oui, ils sont pénibles. Hein. Bon. Vous savez qu'à Toulouse, on y était donc le jour des. Je suis à côté de Bernard Rosani. Nous étions dans son fief. C'était le 28 décembre, donc pour les Saints Innocents. Et donc on avait rendez-vous à 15h30. Nous étions là tout à fait au rendez-vous. Exactement à l'heure, j'ai regardé ma montre à ce moment-là. Alors je n'ai pas une très bonne vue, mais nous étions juste en face de la clinique qui se trouve à l'est de Toulouse, mais enfin dans le Grand Toulouse. Et un quartier assez résidentiel. Et là, bon, je ne voyais rien. Au bout d'un moment, on a entendu des cris, et puis des projectiles. On a entendu les projectiles. Alors, c'était pas bien grave, entre parenthèses, c'était des œufs, des tomates. Mais ensuite, ils se sont précipités sur nous. Alors, à ce moment-là, on a vu des garçons, uniquement des garçons, avec des badges de la LCR, de Ralfron. Alors là, ça tapait. Des coups de pied, des coups de poing, ils ont déchiré nos pancartes, ça. sans préavis. Enfin, s'il y avait des projectiles, vous me direz. Alors, la police est intervenue. Elle a laissé, ça c'est assez pénible, elle a laissé faire un peu les choses. Je me rappelle avoir vu un policier civil enfilant en vitesse son brassard pour bien montrer qu'il était de la police. Et donc, ils nous ont protégés à ce moment-là, donc ça allait beaucoup mieux. Mais ensuite, ils ont dit, écoutez, ça c'est dangereux, vous ne pouvez pas rester là, c'est difficile à survivre, vous irez un petit peu plus loin. Alors, on a été un petit peu plus loin. Et puis là, il a dit non, que vous voyez ça encore, ça ne va pas parce que c'est difficile. Enfin bon, il y avait toujours le prétexte pour aller plus loin. Finalement, au bout de trois quarts d'heure, on était parti. Et moi, je me suis assis plusieurs fois. Ils m'ont évacué finalement par avec une voiture de police. Enfin voilà, je ne dis rien de grave. Mais alors, le lendemain, dans la dépêche du midi, alors là, des choses vraiment étonnantes. Ils ont souligné en page 17, avec un grand titre, les anti-IVG voulaient rentrer dans la... Alors c'était incroyable. Et c'était... Alors, qu'est-ce qui s'était passé? C'était donc les gauchistes qui étaient dans l'enceinte même de la clinique, alors que c'était nous qui, d'après le journal, qui allions pénétrer dans la clinique, mais c'était déjà fait pour la gauche, n'est-ce pas? Ils étaient déjà à l'intérieur. Et ils ont tout retourné, les violences étaient nous, etc., tout à l'avenant.
Alors, c'est étonnant, vous voulez dire que dans la dépêche du midi, il y aurait eu un article qui n'était pas exactement conforme à la,
ah, mais je veux dire, mais
à la réalité.
J'ai rarement
le journal de Madame Baillet.
Les choses ne sont pas trop graves. Mais c'est exactement l'inverse de ce qui s'est passé. Il y a l'article et vous
lisez. C'est pas du temps de Bousquet que ça s'est arrivé.
Voilà. Alors, donc ceci pour vous dire que, à quoi sert cet article? C'est que comme ça leur est difficile pour nous de nous interdire complètement une manifestation, ils nous font glisser vers la loi Neyers. Nous avions l'intention d'entrer. On avait déclaré, pour eux ça n'avait pas d'importance, on avait déclaré, et nous avions, derrière cette déclaration, cette intention, mais ce qu'on peut nous, il y a les faits, on n'a pas bougé de notre abribus, c'est simplement la police ensuite.
Non, mais vous savez ce que c'est quand même la dépêche du midi?
Alors, je crois que ce sont les francs-maçons de, c'est les hautes loges de, ou les basses loges, je ne sais pas.
Sans vouloir faire une rectification sémantique, cher docteur, c'est si vous aviez eu un bon article dans la dépêche du midi, là ça aurait été incroyable.
Voilà. Mais je vais vous dire, l'article nous a paru bon en fin de compte. Bon, parce que le lendemain, ça bouillonnait à Saint-Jean-Baptiste et tout ça. Et enfin voilà, qu'après tout, action-réaction, j'ai presque fini. Un tout petit mot quand même sur l'arrêt Perruche, on peut dire un mot là-dessus?
Vite alors.
Parce que c'est demain. C'est demain une horreur. Ouais. Alors, ceci simplement pour dire, mais tout le monde le sait déjà, c'est que l'horreur, c'est vraiment la loi Veil, puisque c'est elle qui a donné finalement un permis au meurtre. Et du coup, tout est possible. On a le droit de tuer, c'est l'avortement, c'est l'expérimentation. On a le droit d'être tué, c'est l'arrêt Perruche. Et on a le droit de se tuer, c'est l'euthanasie. Et
alors, comme si le docteur Mengele était arrivé au pouvoir. Hein.
Voilà, enfin, je pense que là, la porte est ouverte. Et donc, ils dévalisent l'appartement. Enfin, maintenant, ils ont droit de... Le meurtre est dans nos mœurs, c'est dans les lois. Incroyable.
Dans le monde d'aujourd'hui, enfin, daté de demain, comme d'habitude, il y a... deux très belles photos en couleur, c'est rare, des photos dans le monde, et en couleur c'est encore plus rare, d'enfants à naître. Et on voit donc un enfant à naître, de 3 mois. Et alors, quand on voit cette photographie prise à l'écho, une échographie en 3 dimensions, quand on voit cette photo et qu'on réalise que c'est 3 mois, c'est-à-dire c'est 12 semaines, c'est la période limite de l'assassinat légal, eh bien on voit que c'est un assassinat légal. Ah. On voit, c'est un être humain constitué.
Eh bien alors, je dirais, le monde là nous renseigne utilement.
Enfin. Oui, ils le font pas exprès. Enfin,
ils le font pas exprès.
Le diable porte pierre.
Le diable porte pierre. Oui, alors ceci pour dire que évidemment c'est toujours la même chose, c'est que la loi Veil est elle-même. La loi Veil est la fille du laïcisme. N'est-ce pas, le laïcisme, c'est celui qui écarte Dieu de la cité et qui leur, comment dire, qui met à sa place les ténèbres et l'arbitraire.
C'est une injustice d'appeler ça la loi Veil, d'ailleurs.
Bien
Veil,
sûr.
Veil, Chirac.
Oui, bien entendu. Non, ça, bien sûr. Elle ne porte pas seule le chapeau, bien entendu. Non. Mais lorsque je pense que c'est vraiment la gauche, c'est l'inversion. N'est-ce pas? Et c'est la violence dans la loi. C'est l'antidécalogue dans la loi. Et ça, c'est la gauche. On ne peut pas dire le contraire. Alors, au fond, dans la Bible, Dieu nous dit.
De la droite molle, hein.
Dieu nous dit, veux-tu bien? Eh bien, la réponse de la gauche, c'est non. Non, Dieu, ça ne nous intéresse pas, ni son décalogue. Qu'est-ce que dit la droite? La droite, elle dit oui, et puis juste après, elle dit non. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui vaut mieux. Est-ce qu'il vaut mieux dire non, franchement, comme la gauche, ou d'abord oui, ensuite non?
Et les évêques disent, on ne veut pas en parler parce qu'on ne fait pas de politique.
Voilà. Alors, moi, je prie finalement pour la conversion de la gauche, de la droite, bien entendu, et puis la nôtre, alors là, je dirais, naturellement.
Moi, je prie pour comme vous, la conversion de la gauche en chaleur et lumière.
Ah bon,
merci, docteur. À bientôt.
Merci de me donner asile.
Bernard Anthony, bonsoir.
Bonsoir.
Autre manifestation?
Oui.
Autre nouvelle?
Voilà. Alors, très rapidement, parce que merci de m'avoir permis de venir dans une émission où je n'étais pas prévu, mais pour une mobilisation que nous entendons mener à côté des nombreuses organisations que coordonne aussi Bernard Coll, mon ami qui va parler dans un instant aussi. Alors, vous le savez, le Mémorial de l'honneur français, que j'avais jadis créé avec Roger Olyndre, a organisé des manifestations importantes contre les colonnes des porteurs de valises du FLN, que ce soit à Paris ou à Marseille. Puis maintenant, là aussi, on n'arrête pas le progrès, si l'on peut dire. C'est la volonté de la gauche, dont on parlait, d'officialiser le 19 mars, cesser le feu de la honte, cesser le feu qui n'a jamais été un cesser le feu, puisque ça voulait dire tirer désormais sur des populations sans protection, et on veut célébrer cela. Alors, de même que nous avions mené la manifestation donc, qui avait lieu place Saint-Sulpice, nous appelons tous les patriotes. Alors, je parle pour ma part au nom du Mémorial d'honneur français que je co-préside avec Roger Olyndre, je parle au nom de la Griffe qui défend l'identité française et donc qui est très impliquée dans cela. J'appelle les centaines d'adhérents de la Griffe de Paris à se mobiliser, et même les milliers, au nom de Chrétien de Solidarité, bien entendu, du Centre Charlier. Nous devons tous être place Édouard Herriot le 15 janvier prochain, dès 8h30, pour dire qu'il n'est pas possible de faire de ce 19 mars une célébration officielle. Parce que, encore une fois, on le sait bien, ça a été le début d'un génocide. Alors, le génocide français, nous en avons souvent causé ici, Serge, mais nous avons eu enfin la reconnaissance du génocide arménien. La Griffe n'y était pas étrangère, c'est nous qui avons développé le processus de reconnaissance du génocide arménien. Eh bien, il y a là un génocide qu'il faut reconnaître, ce que mon ami Coll appelle le crime contre l'État, mais crime contre l'humanité. Eh bien, il n'y a pas eu un seul génocide dans l'histoire. Je me souviens, je vais terminer sur cela, d'un débat au Parlement européen où Simone Veil, tiens, nous revenons à elle, voulait m'interdire de prononcer le mot de génocide parce qu'il n'y en aurait eu qu'un seul. Alors, le mot de génocide convient certes pour ce que l'on voulait faire subir aux Juifs, mais enfin, tout de même, les Arméniens, il y a eu génocide, il y en a eu d'autres, les Cambodgiens, mais il y a eu chez nous, en France, un génocide. Organiser un génocide physique, le génocide moral, et puis le génocide par avortement il y a aussi, mais le génocide des 150 000 harkis, des pieds noirs qui ont été enlevés au rang, etc. Mais là, je me tais parce que Bernard Coll va parler et je ne veux pas abuser du temps de parole. Je reviendrai bientôt, on en a convenu hier.
Merci Bernard Anthony. Alors, donc, en tout cas, pour l'instant, vous appelez à la manifestation place Édouard Herriot le 15 janvier à 8h30 contre les célébrations, l'officialisation du 19 mars comme date officielle du...
Voilà. Et pour la reconnaissance, mais Bernard va vous en parler.
Bernard Coll.
Alors, merci Serge de nous avoir invité ce soir. Je pense qu'effectivement, cette date du 19 mars 1962 est une date qui cristallise tout le désespoir des populations françaises d'Algérie, qui ont été les victimes de cet acte prémédité par l'État français à l'époque. En fait, il ne s'agit pas de manifester effectivement contre le 19 mars 1962, mais pour la vérité sur le 19 mars 1962 et la véritable signification de cet acte criminel décidé par le chef de l'État de l'époque pour arriver à appliquer sa politique algérienne. Et ce que demande 101 associations de harkis, de pieds noirs et d'anciens combattants, c'est effectivement la reconnaissance officielle de la responsabilité de la 5e République dans le massacre de 150 000 harkis et la disparition de 25 000 pieds noirs après le 19 mars 1962, car il y a eu ce que l'on appelle la guerre d'Algérie, mais qu'on devrait appliquer, en fait, appeler la guerre civile d'Algérie, puisque tous les citoyens qui étaient en Algérie étaient des citoyens français jusqu'au 2 juillet 1962, date qui a été reconnue officiellement par la loi instituant la guerre d'Algérie telle qu'elle a été votée en 1999. Eh bien, ce que nous demandons, nous, et là, il y a donc 101 associations de harkis de pieds noirs de toute la France qui appellent, et d'anciens combattants, qui appellent à venir, effectivement, devant l'Assemblée nationale. Place du Palais Bourbon, c'est juste à côté d'ailleurs de la place, c'est juste, ces deux places sont côte à côte, et j'espère qu'il y aura suffisamment de monde pour remplir ces deux places, à manifester à 8h30, non pas contre le 19 mars 62, contre la FNAC, le Parti communiste, qui sont effectivement des agents exécutants de cette ce crime d'État, mais pour dire toute la vérité qui correspond à cette date. Parce qu'en fait, aujourd'hui, plus personne ne nie la réalité du crime d'État qui a été commis à l'époque. Le 10 septembre 2001, Michel Tubiana, qui est le président de la Ligue des droits de l'homme, titrait dans Libération « Harki, un crime d'État ». Et il concluait « Une double justice doit être rendue aux Harki, reconnaître le crime d'État dont ils ont été victimes et la discrimination dont ils sont encore aujourd'hui l'objet. Et ceci relève de la responsabilité du président de la République et du gouvernement. » C'est effectivement à nos dirigeants, aujourd'hui, de reconnaître cette réalité. C'est au Parlement de voter une loi officialisant le crime d'État du 19 mars 1962, et ce sont les victimes qui viendront témoigner ce mardi 15 janvier, place du Palais Bourbon, qui viendront montrer leurs cicatrices, puisque nous avons des harkis qui ont été torturés par le FLN qui viennent de toutes les régions de France, du Var. Nous avons des familles de rescapés des massacres d'Oran et de la rue d'Isly qui seront présentes. Nous avons tous ces témoins. Vous verrez les photos des personnes qui ont disparu, sont des enfants, des photos de massacres, etc. Pour la première fois, nous allons montrer le visage de tous ces disparus anonymes et montrer les listes énormes de milliers de noms de disparus après le 19 mars 62. Donc c'est un appel à tous les patriotes, car ce problème-là du 19 mars concerne tous les Français. Les Français ont voté à l'époque, effectivement, pour l'indépendance de l'Algérie, paraît-il, le 8 avril 1962, en ratifiant la déclaration gouvernementale française du 19 mars 1962. Eh bien, nous allons montrer les conséquences humaines, car c'est un drame humain qui, 40 ans après, n'est pas résolu. Il y a encore des familles qui sont dans l'espoir, 40 ans après, de savoir qu'en Algérie, il y a peut-être encore des survivants. Car on sait qu'il y a des survivants qui se sont échappés très tardivement, puisque nous avons des rescapés qui sont échappés d'Algérie en 1989. Et il y a peut-être encore des harkis et des pieds noirs vivants en Algérie, dans les geôles algériennes. Donc tous ceux qui veulent participer à cette manifestation sont les bienvenus. C'est une manifestation, évidemment, qui n'a aucun caractère politique. Elle a un caractère de vérité historique. La coordination sur Paris et la région parisienne est assurée par le Cercle algérianiste de Paris et Jeunes Pieds Noirs. Vous pouvez nous contacter, boîte postale 4 91 570 à Bièvre. Et vous pouvez surtout nous adresser un fax au 01 69 41 89 29. Je répète, 01 69 41 89 29. Nous vous retournerons par fax, si vous voulez, les éléments qui vont vous permettre de venir à cette manifestation. Et puis, surtout, téléphonez à tous vos amis. Faites savoir, effectivement, qu'il y a ce rassemblement. Il faut être nombreux pour montrer que la vérité doit enfin éclater sur ce drame humain qui a été le drame du 19 mars 62.
Merci Bernard Cole. Merci Bernard Anthony.
Alors, place du Parc Bourbon à 8h30, mais c'est à côté de la place Henriot, c'est le même secteur.
Deux rassemblements, c'est nous rejoindre.
Bon, pour des questions pratiques, effectivement,
voilà, parce que c'est trop petit. Il va y avoir deux rassemblements.
Mais c'est côte à côte,
alors,
place du Palais Bourbon.
Pour ce qui est du mémorial honneur français, 70 boulevard Saint-Germain, Chrétienté Solidarité à Griffes, donc appel général. Je dois dire aussi, Roger Hollandre me dit que les anciens combattants, les harkis, viennent avec leur décoration pour exprimer ce côté patriotique, ce côté national du refus de se cesser le feu de la honte.
Venez avec des drapeaux français, le maximum, et les
filles. C'est légal, ça ? On a le droit de venir avec le drapeau
devant
français,
l'Assemblée nationale.
Je me demande, ça va finir par être assez interdit.
Ça n'a pas encore disparu, ça n'a pas été interdit encore.
Merci Bernard, encore. C'est le moment de le dire. À bientôt.
Merci. À bientôt. Au revoir.
Il est magnifique ce générique pour le clan de la presse, il est éblouissant. Il faudra nous resservir ça, Franck. Un peu long peut-être, parce qu'on était en train de se battre avec les micros. Comme d'habitude, pour le clan de la presse, autour de cette table, Marie-Camille Guéric, directrice de Rivarol. Bonsoir Marie-Camille. Jean Madiran, directeur de Présent. Bonsoir Jean.
Bonsoir Serge.
Jean-Claude Varane, directeur de National Hebdo.
Bonsoir.
Bonsoir Jean-Claude. Emmanuel Ratier, directeur de Faits et Documents. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Serge.
Et puis alors le petit Henri de Fersan, directeur des poules Fersan. Non, c'est pas ça, des lettres Fersan, pardon.
Les poules Fersan se portent très bien. Elles attendent avec impatience l'arrivée du petit frère pour la fin du mois.
Ah ça y est, c'est pour la fin du mois.
Voilà, la fin du, disons officiellement, c'était censé être début février, mais vu l'ampleur que prend les choses, je pense que ce sera vraisemblablement pour la fin du mois.
Ouais, bah dites non, voilà déjà une information. Alors en plus, je sais pas comment il fait, parce que quand il fait pas des bouquins, chez les enfants, enfin vous n'arrêtez pas, quoi. C'est comme Gobry finalement. Vous savez combien a publié combien le professeur Gobry a publié de bouquins? J'ai appris ça hier soir.
147.
Non, ah non là vous. Enfin lui il en avoue 97, mais il a peut-être
publié. Ah mais il doit en avoir soupçonné.
Oui. C'est quand même prodigieux, non? 97 bouquins ou 147 si j'en crois Jean Madiran.
Peut-être 145 seulement.
Ah.
Oui. Non mais Philippe. Il y en a deux qui sont encore.
Philippe Randa c'est au moins 260.
Ah bon?
Avec tous ces romans policiers, ces romans de science-fiction, tout ça.
C'est incroyable ces gens-là. Et vous, Jean, combien vous en avez publié?
Je n'arrive pas encore à 30. C'est pour ça que à la question, je dis une trentaine. Voilà. Mais si on compte les brochures...
Alors là...
Et les opuscules...
Et les journaux.
Alors les
journaux en 20 ans.
On peut pas compter les deux à la fois, parce que je reprends dans les livres ceux de mes articles qui paraissent devoir passer à une courte postérité.
Mais vous ne faites que ce
qu'est un quotidien.
Vous ne faites
lequel
que
selon la définition classique doit être conçu, écrit, lu et oublié dans la journée.
Ça, oublier, je parle pas de présent, mais enfin en général, les quotidiens, ça se fait assez facilement.
Oui.
C'est plus facile de les oublier que de les écrire. Marie-Camille, vous avez publié
des jamais. Livres?
Jamais, comme moi.
Jamais comparé.
Moi, le seul bouquin que j'ai fait, je me suis fait aider par Sanders, ou plutôt, j'ai apporté mon aide à Sanders, disons, parce que...
Non, mais je me réserve quand j'en publierai un.
Dès qu'on aura quelque chose à dire...
Vous faites allusion au tome 1,
oui,
et nous attendons toujours le tome 2.
Ben, vous pouvez l'attendre un moment. Jean-Claude, non plus.
Pas encore.
Ratier, ah ben oui, mais Ratier, il publie des trucs.
Il publie des livres. Combien de bouquins il a publié?
Combien?
Il a écrit et publié, ou il a publié sans les avoir...
Une dizaine, je pense.
Une dizaine, voilà.
Comme dit mon ami Georges, vous parlez tout le temps du livre que l'on ne peut pas ne pas avoir lu. Voilà. Alors on a tous publié le livre qu'on ne peut pas ne pas avoir lu.
Non, Camille n'a pas...
Ah non.
J'ai découvert...
Jean-Claude et moi, nous sommes les...
Nous nous réservons.
Voilà.
Non, mais j'ai un titre pour vous.
Oh, moi j'en ai beaucoup.
Vous appelez ça éditorio.
Éditorio.
Et vous les publiez.
Ouais, personne n'ira lire. Moi, je ne lirai jamais un livre qui s'intitulerait éditorio.
Alors, si vous voulez, je vous propose pour commencer d'évoquer la question de l'euro. Vous savez qu'on est passé à l'euro.
Oui,
bon. Et que vous regardez d'un air étonné, Jean.
Non, je ne regarde pas d'un air étonné. Et que la profession de neuropsychiatre est remplacée par la profession de
europsychiatre. Alors, là-dessus, j'ai reçu justement à propos de ça un message d'un auditeur-lecteur qui me dit, en fait, on prétend qu'on est passé à la monnaie unique. C'est pas vrai, c'est pas la monnaie unique, il y a plusieurs monnaies. Il y a l'euro, le neuro, le zéro, le treuro et le teuro. Effectivement, quand on dit j'ai 1 euro, j'ai 2 euros, j'ai 4 euros, j'ai 9 euros, c'est le feuro, c'est encore autre chose, et j'ai 30 euros.
Est-ce que vous mettez un S quand il y en a 30? Ou est-ce qu'il en
J'en
faut davantage?
J'en ai jamais assez pour mettre des S.
Sur les billets, il n'y a pas d'S.
Non, mais oui, mais vous pouvez pas leur demander de connaître l'orthographe, c'est des étrangers. C'est une monnaie d'occupation, l'euro.
Oui, c'est une monnaie d'occupation.
J'ai découvert l'inventeur.
Ah, cela aussi, on le voit.
Enfin, c'est pas moi qui l'ai découvert, c'est un auditeur qui m'a envoyé un document qui prouve de façon définitive que le véritable inventeur de l'euro, c'est
Göring,
Rabelais.
C'est Rabelais.
Hein, vous l'avez vu? Et alors je vais vous en donner la preuve.
Remarquez ça, c'est une caution bourgeoise.
Non, pas du tout. Chapitre 13 de Gargantua.
Oui.
Comment Grand Gousier connut l'esprit merveilleux de Gargantua et l'invention d'un torche-cul. Ça, c'est de la littérature classique, hein, moi je ne peux rien. Hein.
Oui.
Et alors à ce Gargantua fait réponse qu'il avait donné tel ordre quand tout le pays nettoie garçon plus necte que lui. Comment cela, dit Grand Gousier, j'ai, répondit Gargantua, par longue et curieuse expérience, inventé un moyen de me torcher le cul le plus seigneurial, le plus excellent, le plus expédient que jamais fut vu, l'euro. Voilà. Ça, l'euro, c'est moi qui l'ajoute pour expliquer, mais c'est la preuve que c'est donc Gargantua, ou plus exactement Rabelais, qui est l'inventeur du torche-cul qu'on a baptisé l'euro.
Oui, mais il y a une interférence. Là. Comment appelle-t-on
Victoria.
Ça un mot qui s'est introduit dans un texte, dans le texte original, semble-t-il.
Bah, pourquoi? Non, j'ai rien introduit. J'ai donné la définition.
Et dans le fond, si je comprends bien la logique de la chose, euro n'est que la traduction mondialiste du vieux mot français assignat.
Exactement, voilà. Et le monde,
Donc, Rabelais avait inventé les assignats. Ouh là là.
Le monde, deuxième citation ce soir, j'espère qu'il me fera un service, révèle que le trabendo,
oui.
Camille, qui est, comme vous le savez certainement, mieux que n'importe qui, parce que vous savez tout, et le trafic entre l'Algérie et la France, ou plus exactement entre la France et l'Algérie, le trabendo fonctionne désormais à l'euro. Mais les trabendistes ne veulent pas d'euros étrangers, ils veulent de l'euro franc. Oui. L'euro lire ne les intéresse pas. L'euro drachme ne les intéresse pas du tout, l'euro peseta pas plus, ils veulent de l'euro franc. Alors ils retournent la pièce quand on leur montre côté euro, pour voir si ça porte sur la face.
En somme, ils voudraient
parce
plutôt.
Qu'ils se contentent de pièces.
Ils voudraient une pièce marquée d'une francis, en somme.
Oui.
Bon, je vois que nous allons.
Mais vous savez qu'il y a eu des statistiques qui viennent de sortir, que la facture du passage à l'euro serait de 30 milliards.
D'euros, bien entendu.
Oui, que d'autre part, les chèques maintenant vont être payants et que les retraits que l'on va faire et quand on va payer avec des cartes bancaires dans les restaurants, eh bien, il y aura un prélèvement qui sera fait. Il y a déjà un prélèvement qui est fait par là, mais il y a un deuxième prélèvement qui sera fait sur votre propre compte. C'est-à-dire lorsque l'on dit,
c'est la double peine.
Lorsque l'on dit aux Français que le passage à l'euro n'a aucune importance financière, il y aura des importances financières considérables chez les citoyens.
C'est ce que nous appelons les dégâts collatéraux. Oui.
Conclusion, ne payez plus.
Et puis on va revenir à l'euro, mais je voudrais quand même faire lecture d'une lettre qui a été reçue par le service historique des armées. C'est un chercheur qui a écrit au service historique des armées. Je me penche depuis quelque temps sur l'histoire des grands saltimbanques hexagonaux et plus précisément depuis l'avènement de la République jusqu'à nos jours, période notoirement riche en battleurs banquistes et histrions. J'ai entendu dire qu'il pourrait y avoir un lien de parenté entre le ministre Alain Richard et feu Jean Richard, d'abord amuseur public puis créateur d'un grand cirque qui a fini en faillite. C'est sans doute pure coïncidence. Inconnus du bon peuple, les Richards sont une foultitude au Parti Socialiste, au RPR, qui n'ont apparemment aucun lien entre eux. Une autre rumeur laissant à croire que le ministre précité serait le fils de Marthe Richard, mais disant sans fondement, puisque cette dame, on s'en souvient, avait mis un terme à l'existence des bordels de la République. Il n'y a donc bien évidemment aucun point de comparaison entre elle et le ministre. Pourriez-vous m'éclairer sur ce sujet d'avance? Grand merci. Alors, l'auditeur, lecteur qui m'envoie cette lettre ne me dit pas s'il a eu la réponse du service historique des armées. Enfin, si le service historique des armées sert à autre chose qu'à entreposer des documents qui sont volés par des escrocs pour être vendus sur le marché des originaux et des autographes, hein. Il pourrait peut-être donner une réponse. Alors, la question, je la répète, le ministre Alain Richard est-il le fils
de Marthe Richard.
Marthe Richard et de Jean Richard, si j'ai bien compris.
Richard, oui.
Voilà. Donc, est-ce que vous voulez revenir à l'euro?
que d'autres commentaires à faire sur l'euro.
Nous voudrions le quitter avant d'y revenir.
Oui, on voudrait bien
et
le quitter,
peut-être
mais...
ne pas y revenir.
Ben, je ne sais pas, je crois que l'euro va être à l'épreuve d'un événement tout à fait redoutable, qui est la dévaluation du peso argentin, qui peut avoir de grosses répercussions si on pense que la France et surtout l'Espagne, qui a pris la présidence de l'Union européenne, sont parmi les plus gros investisseurs en Argentine.
Oui.
Et je crois que les encours français sont de l'ordre de justement 8,5 milliards d'euros en Argentine, ce qui est absolument considérable pour France Télécom. Total Finael fait pas mal de très grosses Carrefour et pas mal de très grosses entreprises. Et ça peut avoir d'énormes répercussions sur l'euro, dont on nous avait dit qu'il était fait en ERA pour l'éternité.
Moi, je vais pour revenir un peu au ras des pâquerettes, mais je vais vous donner un exemple. Nous faisons un grand banquet le 3 février, donc j'ai fait un appel et j'ai reçu l'autre jour un chèque de 220 francs, c'est le prix du repas. Deux repas, ça fait 440. Et notre
c'est
lecteur,
adroit comme moyen d'annoncer un dîner, ça.
Notre lecteur, non, mais attendez, c'est pas je pourrais faire l'annonce après, plus tard. Le lecteur met, en plus, je vous fais un petit don. Et il a fait un chèque de 500 euros. C'est-à-dire qu'il a fait un chèque de 3280 francs.
C'est bien, ça. C'est
mais
sympa.
Il l'a fait certainement, croyant que c'était un chèque de 500 francs.
Vous l'avez rien dit, j'espère.
Ah, Jean-Claude.
Tête haute et main propre.
Non, mais ça, c'est Le Pen, c'est pas Jean-Claude Varane.
C'est National Hebdo.
Oh, bah ouais, c'est pas comme ça qu'on fait forcément.
Et alors, qu'est-il arrivé ensuite?
Bah, on lui renvoie le chèque.
Et oui, mais alors, il vous a répondu merci.
Non,
il vous a dit, c'était bien 500 euros que je voulais vous donner.
Non, mais. Alors, je regretterais.
pour en revenir à ce que dit Jean-Claude, il m'est arrivé, bon, pas la même histoire, mais à peu près équivalent pour montrer quand même un peu les problèmes des gens. Moi, j'ai quand même deux de mes abonnés qui m'ont envoyé un chèque en blanc signé, me disant, on ne sait pas faire la conversion, vous mettrez la somme en euros.
Mmh, bon,
ils ont beaucoup de chances de tomber sur moi. Mais on imagine...
C'est sûr. Mais ça a terriblement perturbé, puisqu'on parle un peu boutique, nous, le nombre d'erreurs, mais de chèques non signés également. C'est-à-dire que les gens sont tellement obnubilés par la conversion qu'ils oublient de signer leur chèque.
Ça n'a strictement aucune importance.
Si vous faites n'importe quel gris-gris, comme c'est des chèques de 500-600 francs ou 700 francs, mettons, vous faites n'importe quel gris-gris, le chèque
est...
Les banques ne vérifient qu'à partir de 2000 francs.
Non, mais ça montre en tout cas la confusion et l'inquiétude.
La sidération.
Oui.
Et je fais allusion, j'indique ce détail de la non-importance de la signature par référence à ce que vient de dire Jean-Claude Varane. Effectivement, dans l'euphorie complètement bidon qui a été annoncé par les médias dans les jours, le lendemain, quoi. On savait que ça avait été une réussite formidable. Il y avait encore, les gens n'avaient même pas mis leurs mains à la poche, qu'on savait déjà que c'était une réussite extraordinaire.
Dans toute l'Europe.
Et un banquier, un représentant des banques, plus exactement, est venu sur une radio, je crois que c'était Europe ou France Inter, peu importe, et on lui a posé la question, on lui a dit, mais est-ce que l'euro ne va pas être l'occasion de faire ce que les banques veulent faire depuis très longtemps, c'est-à-dire faire payer les chèques et faire payer les prélèvements comme ça se passe en Allemagne, etc. etc. Et ce type a répondu, pas du tout, il n'en est absolument pas question, ou alors dans quelques années on verra, mais vous savez, ça prendra du temps. Deux jours plus tard, il y a un type qui est arrivé en disant, bon alors maintenant, on veut faire payer les chèques, et il n'y a pas de raison, il faut unifier tout ça, comme dans toute l'Europe, faire payer les chèques, faire payer les prélèvements, faire payer les paiements par carte bancaire. Donc, ça veut dire que ça va se faire, c'est évident, mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette facturation d'un service ne correspond en réalité à aucun service, puisque le chèque ne représente strictement aucune sécurité. C'est-à-dire que si on vous vole un chèque ou des chèques dans votre sac, et que le voleur est autre chose qu'un imbécile et quelqu'un de prudent, et fait des chèques de moins de... Alors, quelle est la somme à partir de laquelle on vérifie?
Je crois que généralement, c'est 2000 francs.
Oui, l'équivalent donc de 300 euros, si je sais compter. C'est ça, oui. C'est 300 euros. Eh bien, si c'est inférieur à ça, il n'y a aucun contrôle. Donc, le gars peut faire 30 chèques de l'équivalent de 2000 francs, ce qui fait 60 000 francs, et vous videz un compte en banque sans que la banque s'en aperçoive le moins du monde, parce qu'ils ne font aucun contrôle. Et ils font payer un service qui n'existe pas. Donc, les banquiers sont des escrocs. Pas tous, mais il doit y avoir un banquier honnête.
Non, mais la structure, le principe, le principe de fonctionnement que vous évoquez ne met pas en cause forcément l'honnêteté des employés de banque, mais du système bancaire tel qu'il fonctionne sans être sévèrement contrôlé par un pouvoir politique.
Ha ha.
Mais combien y a-t-il actuellement de banques, de hauts banquiers mis en examen à la Générale, à la Société Générale, au Crédit Lyonnais, à la BRED, pour des imprudences, disons, dans le blanchiment ou dans des circuits, notamment avec l'escroquerie du Sentier ou celle d'associations communautaires exportant de l'argent vers Israël, ou enfin, je crois, un banquier de la Société Générale a été très, très récemment mis en examen pour
Très discrètement pour
blanchiment d'argent.
Vous connaissez le vrai slogan du Crédit Lyonnais. Le pouvoir lui dit de dire oui.
Oui.
Bien. Des questions, Victoria?
Oui. Savez-vous ce qu'est devenu l'or de la Banque de France? Si le cours de l'euro s'effondre, pour le maintenir, le Hollandais Duisenberg est-il habilité à vendre cet or?
Duisenberg,
je ne sais pas comment c'est écrit.
Alors, est-ce que quelqu'un a une réponse? Camille, vous avez une réponse
sur l'or
de la Banque de France? On a dit qu'il avait été transporté à Francfort,
extravagant. J'ai un autre message qui dit « L'or de la France est à Francfort pour garantir les 6 000 milliards de francs de dettes de la clique socialo-communiste, ou bien pour payer la réunification de l'Allemagne, ou bien pour payer le déficit américain. »
Ah mais ça en plaît beaucoup sur notre or. Je ne vois pas ce qu'on vient faire dans le déficit américain.
Ben oui, il voit très bien.
Jamais.
Oui, mais en
non, mais le déficit français, il suffit déjà d'employer un autre or. Hein.
Le référendum de Maastricht impliquait-il l'acceptation de la monnaie unique?
En fait, non.
Pas forcément, mais surtout, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu la promesse, ce que valent les promesses, bien entendu, mais ce qu'il y a eu la promesse de plusieurs, et spécialement de Jacques Chirac, qu'il y aurait un référendum sur la monnaie unique.
Chirac est un menteur.
Voilà. L'accord n'a pas eu lieu, et que si Maastricht comportait la monnaie unique, les Français n'en savaient rien. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'Europe? On leur a dit. Bien sûr qu'on est européen, qu'on est pour l'Europe.
Le dernier jour, on leur a dit, voulez-vous faire plaisir à ce pauvre monsieur Mitterrand qui est opéré d'un cancer de la prostate, ou voulez-vous qu'il ait une mauvaise convalescence?
Alors, moi aussi, j'ai voulu passer à la poste, mais il y avait 3 km de queue à cause de cette monnaie de singe. Je vous lis tout. Avec l'euro, les prix flambent, c'est fou. Depuis 8 jours, les salades sont passées à des prix extraordinaires. Est-ce le gel ou est-ce le gel des prix?
Franchement, on n'en sait rien. C'est probablement le gel et probablement l'euro. Mais il faut dire aussi que c'était absolument certain que l'euro allait provoquer une augmentation. Je vais prendre un exemple. Vécu l'abonnement, ce que j'appelle le pacte abonnement au Libre Journal, on peut l'obtenir en envoyant 100 francs par mois pendant 6 mois au lieu d'envoyer 600 francs d'un seul coup. Bon, 100 francs, ça représente, je crois, 15,24 €. Au point de vue comptabilité, c'est ingérable. Alors, on a deux solutions. Ou on met le pacte abonnement à 15 euros, ou on le met à 16 euros. Bon, alors moi, j'ai trouvé la solution, je le dis aux auditeurs. tous les chèques en francs sont valables jusqu'en décembre 2002, à condition qu'ils soient datés d'avant le 31 décembre 2001. Donc, quand vous voulez envoyer un chèque en francs, vous faites votre chèque en francs et vous le datez du 30 décembre 2001. Et il est valable pendant un an.
Oui. Voilà. Et vous vous êtes pas aperçu que parmi les projets que vous avez indiqué tout à l'heure et de rendre les chèques payants, il y a la surtaxe pour les chèques en francs qui devraient être encaissés 6 mois ou 9 mois ou un peu plus ou un peu moins après le 31 décembre.
Ah oui, oui.
Ils vont vous renier vos...
D'autre part, il y a eu une rétention de chéquiers en francs l'année dernière. Donc oui, il y a des gens qui n'en ont plus et on leur a seriné
de les déchirer,
détruire. Donc
par exemple, le Crédit Lyonnais a cessé de délivrer les chéquiers en francs à partir du 1er octobre.
Sauf si on le lui réclamait avec l'énergie convenable. Oui, parce qu'à ce moment-là,
si vous réclamez, il vous envoyait un chèque.
Oui,
en
si vous disiez, qu'est-ce
oui,
se
mais
passe,
il fallait s'armer d'autorité.
Exactement.
Maintenant qu'il n'y a plus de frontières, grâce à l'euro, et il n'y a plus de charges non plus, grâce à l'euro, on joue le jeu des terroristes ou quoi. Samedi dernier, j'ai fait un achat dans une boutique avec des francs. Et au moment de payer, j'ai demandé « Acceptez-vous l'argent français ?» Quel lapsus.
C'est pas lapsus, c'est vrai.
C'est ça. Et je ne paie pas en euros, manifestement, et à haute voix, je paie en machin. Car je considère qu'une monnaie qui n'a pas de pluriel n'a pas d'avenir ni d'existence. Les commerçants du quartier me sourient et me rendent en machin.
Il faut parler de monnaie d'occupation. Alors, je crois qu'on a fait le tour de la question euro. Encore
j'ai
un mot.
Une dernière chose, une plaisanterie. Monsieur de Beketch a travaillé avec l'euro au journal Pilote, mais avait-il auparavant travaillé avec Le Franc?
Oui, j'ai d'ailleurs travaillé effectivement avec un garçon qui s'appelait Le Franc. Et avec l'euro, on avait fait deux pages sur le flottement des monnaies, dans lequel on avait imaginé une monnaie européenne qui s'appelait pas l'euro d'ailleurs. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire de l'euro.
Oui, je voudrais quand même, parce que cette histoire de l'Europe va quand même poser des problèmes en dehors de l'euro. C'est les problèmes syndicaux. Avant, je vais donner un exemple. Avant, Michelin France se mettait en grève. Michelin faisait produire son usine d'Allemagne ou son usine d'Angleterre ou son usine d'Italie, c'est-à-dire que sa fabrication se maintenait. À l'heure actuelle, avec le système des syndicats européens, Michelin ne pourrait plus sortir car toutes ses usines en France, en Allemagne, en Angleterre et en Italie seront fermées ou seront en grève.
Ce qui signifie qu'il y aura des délocalisations en Afrique et surtout en Asie.
Voilà. Ça sera quand même une conséquence aussi de l'euro. Parce que
t'as une mentalité de briseur de grève.
Non, après, on va essayer d'être réaliste de ce qui nous attend.
Moi, je suis pas du tout d'accord parce que je vois pas ce qu'on a contre le droit de grève. Parce que ça me paraît énorme de s'opposer au droit de grève.
Enfin, chez Michelin, en tout cas.
Bon. Le deuxième élément, bon, c'est que, en tout cas au niveau européen, à la différence de la France, où il y a un syndicat communiste ou communisant puissant, dans la plupart des autres pays européens, c'est des syndicats, pourrait-on dire, favorables à la cogestion ou des syndicats relativement responsables.
Syndicat jaune.
Bon, non. Le syndicalisme, dans le bon sens du terme, des bourses du travail, etc., du 19e siècle. Donc on peut parfaitement avoir des négociations au niveau européen, puisqu'il y a des groupes capitalistiques européens, et il n'y a aucune raison d'empêcher la création de syndicats européens au niveau des groupes des multinationales. Il n'est pas normal que les ouvriers européens puissent pas se défendre, notamment, par exemple, contre les délocalisations. Donc moi, je vois pas ce que ça vient faire.
Là. Moi, je suis tout à fait pour le droit de grève dans les entreprises comme Michelin. J'ai pas de voiture, donc ça me gêne pas. Mais je suis contre le droit de grève pour le métro, la SNCF, la poste, l'électricité, le gaz, et les choses qui me servent, quoi. Mais les choses qui me servent pas, ça m'est complètement...
Oui. Il n'y a pas eu un jour de grève dans les chemins de fer allemands l'année dernière.
L'URSSAF peut se mettre en grève aussi, c'est pas interdit. Hein.
Donc, ça peut avoir aussi des effets favorables.
Oui, mais ça, c'est les Allemands, vous savez bien, on connaît les Allemands. Donc ça y est, l'Europe terminait, plus d'un de propos anti-européens à tenir.
Ça n'est pas... Non, ne confondons pas tout. L'euro n'a rien... est une excroissance européenne. Ça ne remet pas en cause... L'Europe, c'est quelque chose qui est absolument...
Je veux dire qu'on peut être contre l'euro sans être contre
absolument.
L'euro.
Absolument. On peut être pour l'Europe et contre l'euro. Ça ne me paraît pas du tout contradictoire.
On peut être contre tout, contre les deux.
On peut être également contre les deux.
C'est pas votre cas.
Ça n'est pas mon cas.
Non, mais c'est le mien. C'est pour ça que je posais la question, est-ce que j'ai le droit?
Voilà.
Oui, mais le problème n'est pas d'être pour l'Europe ou contre l'Europe, parce que l'Europe existe dans une certaine mesure. Est-ce qu'on veut lui donner une certaine forme d'unité économique ou politique? C'est une autre question. Nous sommes européens géographiquement. L'Europe existe aussi comme culture. Nous sommes souvent les premiers à faire la distinction entre l'immigration européenne et l'immigration extra-européenne. Et d'autre part, il s'agit de savoir si on a assez discuté quelle forme pourrait prendre l'Europe. Alors dire qu'on est pour ou contre l'Europe, en réalité, c'est, je crois que c'est une réduction de la vraie discussion qu'il peut y avoir.
Je vous répondrai qu'on peut être pour l'Occident chrétien et contre l'Europe. Parce que l'Europe, c'est une machine qui n'a absolument aucune réalité, ni géographique, ni historique, ni rien.
C'est contre l'Union
l'Occident
européenne,
chrétien,
contre la communauté européenne,
l'Occident chrétien est une réalité.
Ou les institutions européennes.
Réalité culturelle.
Je ne suis pas sûr que l'Occident chrétien soit aujourd'hui une réalité.
Non, en tout cas, ça a été une réalité, tandis que l'Europe, jamais.
Mais... L'Europe, il s'agit de savoir jusqu'où elle va, où il peut y avoir des discussions, mais de toute façon, la France aussi a existé avec des frontières plus réduites que celles qui sont celles d'aujourd'hui, ou plus larges au sud qu'elles ne sont maintenant.
Non, Serge,
contre l'Europe, ça me paraît anti-géographique, vous comprenez.
Pierre Le Grand parle d'Europe quand il y a, je crois, quand il se rend aux Pays-Bas pour voir ce qu'il peut en tirer. Et je crois qu'il y a justement que son secrétaire prend des pensées sur l'Europe. Mmh. Une Europe qui va de...
Voltaire aussi écrit sur l'Europe.
Voilà. Oui. Donc,
ça ne me la rend pas plus sympathique pour autant.
Le congrès de Vienne, des 815, c'est le congrès européen. C'est l'Europe.
Vos exemples ne me convainquent pas.
Mais je ne cherche pas à vous convaincre.
Je pense que nous sommes tous d'accord qu'effectivement l'Europe existe, mais ce que je crois, c'est qu'autour de cette table, ce que nous ne voulons pas, c'est un Parlement européen qui, à ce moment-là, prend le pouvoir sur les parlements de nos différentes nations.
Ce que je veux pas, c'est, par exemple, un type comme Dim Vuisenberg qui est tombé du chapeau, on ne sait pas d'où il vient, il est élu par qui, il est qui l'a désigné pour occuper le poste, quelle est sa légitimité démocratique, puisque malheureusement on est en démocratie. Et ce type décide souverainement, avec une bande de gnomes masqués, de la politique monétaire de l'Europe.
Il n'est pas plus choisi que Jean-Claude Trichet.
Exactement, c'est ce que j'allais dire.
Mais le point peut-être celui-ci, c'est qu'en tout cas on nous ment sur un point. Alors on peut accepter ou ne pas accepter, mais on le fait dans le mensonge, c'est qu'on nous fait prendre des transferts de souveraineté pour des délégations de souveraineté.
Oui, c'est ça.
Il y a cette différence, c'est qu'une délégation de pouvoir, je te le délègue, je le reprends quand je veux, et éventuellement tu m'en rends compte. Tandis qu'un transfert de souveraineté, adieu, je ne l'ai plus.
C'est exactement ce que veut faire Giscard.
Peut-être qu'on veut des transferts de souveraineté, mais on sait, pour une raison que moi j'attribue au fait qu'il y a quelque chose d'antinaturel dans la manière dont on procède, pour tout autre, on nous ment quand on nous répète que c'est des délégations de pouvoir, des délégations de souveraineté.
Vous savez, il y a eu une démonstration de ça, de ce point que vous soulignez, Jean, il y a quelques jours, avec la démission de Ruggiero en Italie, où on a vu donc ce type qui a fait une démission qui est évidemment un coup politico-médiatique, bon, qui a été repris immédiatement par la racaille politique et les médias. Et on a entendu sur les radios Fabius dire qu'il demandait des comptes à l'Italie, qu'il demandait à l'Italie de donner des éclaircissements sur sa politique européenne, éclaircissement qui était rendu nécessaire par la démission de M. Ruggiero, qui posait des questions sur l'attitude. Alors, je ne vois pas à quel titre M. Fabius va demander des comptes à l'Italie sur sa politique européenne, qu'il n'a qu'à s'occuper de ses...
Non, mais c'est tout simplement parce que le ministre des Affaires étrangères italien est membre de la commission trilatérale.
Mais bien sûr,
c'est le seul membre italien au gouvernement membre de la commission trilatérale.
Ancien directeur général adjoint de l'OMC.
De l'OMC, qui
caution
a été
européenne
et caution et caution pour les États-Unis du côté italien.
C'est ça.
Et les émissaires américains, parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a les bases de l'OTAN, il y avait le réseau Gladio, en fait, etc. On sait toujours que la présence militaire américaine a été très très importante en Italie. Les États-Unis n'ont donné leur aval. Je l'ai publié dans ma lettre, dans Fake Document, il y a 6 mois à peu près, ou enfin au moment de la formation du gouvernement. Les États-Unis n'ont donné leur aval à la formation du gouvernement Berlusconi qu'après que deux émissaires américains de premier niveau se soient rendus en Italie. Ils ont rencontré Berlusconi et le futur ministre des Affaires étrangères. C'est les deux personnes qu'ils ont rencontrées. Et puis ça a été tout. Et ils ont accepté que le gouvernement se forme à partir du moment où ils avaient véritablement une caution, même plus un complice au gouvernement.
S'ils avaient refusé,
le complice s'en va, le gouvernement peut tomber. Ah ben le gouvernement aurait évidemment tombé. Enfin, tout le monde sait ce que ça a été le travail de la démocratie chrétienne depuis la Seconde Guerre mondiale. Bon, la loge
c'est
P2,
d'ailleurs etc. très intéressant ce qui s'est passé en Italie pour l'euro. Parce que s'il y a un pays qui est véritablement européen, c'est l'Italie. Mmh. Ne serait-ce que d'abord parce qu'elle a incarné l'Europe à deux reprises même. Enfin, la Renaissance italienne rayonne sur toute l'Europe. Et que là, tout à coup, on se trouve devant des eurosceptiques, y compris... Ce qui montre les limites, d'ailleurs, aussi de nos amis qui disent l'Europe est un refuge pour les séparatismes provinciaux. L'euroscepticisme de la Ligue du Nord, qui est un mouvement profondément antinational. Donc là aussi, ça doit être suivi, cette affaire italienne, parce que cette vieille sagesse italienne, on pourrait méditer là-dessus, sur ses réserves et sa méfiance.
Il y a quelque chose d'assez bizarre dans cette Ligue du Nord. Moi, je ne comprends pas très bien, parce que l'autre jour, Hilar était dans l'émission de Jean Ferré, et présentait son bouquin, parlait de son bouquin qui est passionnant sur le rôle de l'Allemagne dans l'exploitation des irrédentismes. Bon. Et alors, on voit très bien qu'il y a un jeu fédéral, ou plutôt fédératif, des Allemands en Europe, qui consiste à casser les nations pour leur substituer des entités régionales ou provinciales, et ensuite pour les rassembler dans un grand ensemble pâteux européen. Or, ça, c'est le jeu qui joue en France, en Corse ou en Bretagne, et c'est le jeu qui joue en Espagne avec les Basques. Mais, curieusement, ça marche plus en Italie avec la Ligue du Nord. C'est-à-dire que la Ligue du Nord, qui fait exactement ce que les antinationaux attendent d'une entité provinciale, qui est de détruire le tissu national, elle est considérée comme une formation d'extrême droite ultranationaliste aberrant comme...
Non, parce que la Ligue du Nord a une vocation nationale.
Oui, le but est de créer un État indépendant de Padanie. Le but n'est pas de créer une région autonome. Ils avaient créé leur monnaie.
Oui.
Un château cabinet, la capitale. Donc en fait, ce qu'ils veulent, c'est un État indépendant. Ils sont tout à fait séparatistes.
Voilà.
Bon, ils veulent pas s'inscrire du tout dans une Europe fédérale.
Et puis il y a quand même la réaction gros sens sur tout ça, psychologiquement et idéologiquement, ce que j'appellerais la...
Il faut vous approcher.
Ce que j'appellerais la réaction de rejet d'une Europe qui est socialiste, une Europe qui est socialo-communiste, à l'égard d'un gouvernement qui se présente comme un gouvernement de droite. c'est pas l'unique raison, mais dans l'ambiance, elle est déterminée par cette réaction visiblement de rejet. Et dès qu'on peut taper sur Berlusconi, on fait la chaîne comme on a fait contre Haider, comme on fait dans des cas semblables.
Pour en revenir aussi à Umberto Bossi, il a pris aussi lors de la dernière campagne électorale en Italie des prises de position anti-maçonnique qui étaient pour le moins fort peu politiquement correctes.
Ah bon, Bossi est anti-maçon.
Oui, enfin, moi c'est ce qu'il a dit pendant la dernière campagne électorale.
Non. Commentaire, réflexion, non. Bien. Oui, Victoria, des messages, des questions.
Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, il ne faut pas antidater l'échec.
Il ne faut pas antidater, c'est pas antidater. C'est pas du tout antidaté, c'est exactement le contraire. Antidater un chèque, ça veut dire je vous fais un chèque aujourd'hui, mais mon compte ne sera approvisionné que dans 6 mois, donc je date le chèque de dans 6 mois. Je date le chèque du mois de juillet 2002. Et ça, c'est un délit. Mais post-dater un chèque, c'est pas du tout un délit. Vous établissez le chèque au 30 décembre, et puis vous me le donnez aujourd'hui, et moi j'ai jusqu'au 30 décembre 2002 pour le porter à la banque. C'est pas du tout un faux. Non, pas du tout. Mais non, c'est une date. Vous pouvez même ne pas le dater du tout, le chèque.
Mais il est vrai que si c'est un faux de son scan, on est relaxé.
Bon, vous savez, ça ne se fera qu'une ligne de plus dans mon casier judiciaire. Ça pèse pas lourd, c'est dans une poubelle, ça.
Les dictateurs en culotte coûte de Bruxelles ont réussi ce qu'aucun gouvernement n'avait réussi jusqu'à présent, une dévaluation de 25%. Nous avons donc perdu 25% de pouvoir d'achat en face au dollar. Voilà une des raisons de l'augmentation du pétrole, de l'augmentation du chômage consécutif aux achats de matières premières, augmentation de 25%. Samedi dernier, pendant que...
Cela dit, ça, c'est déjà depuis 1998, bien avant l'entrée officielle du dollar, puisque les échanges de l'euro, puisque...
Oui, parce qu'à la limite, sur l'année 2001, l'euro a été relativement stable, quand même.
Vous savez, un bateau qui a coulé, il est très stable.
Ah, oui, au fond,
Samedi dernier, pendant que la presse nous annonçait que le passage à l'euro se passait merveilleusement, ma fille est revenue d'un magasin Auchan de mon repas avec des avoirs en guise de monnaie, car il n'avait plus ni euro ni franc. Finalement, tout le monde va payer.
C'est comme en Italie, dans le temps, où on recevait des francoboli, des bonbons, des jetons de téléphone. C'était formidable. On s'amusait bien.
Eh bien, mais c'est le client qui devrait, dans ce cas-là, à faire admettre au magasin que le client paie avec un avoir qui signe.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi l'avoir?
C'est une bonne idée. Dans ce sens-là. Je vais essayer ça la prochaine fois. Je vais dire, je vous fais un avoir de...
Si vous n'avez pas de monnaie, eh bien, très bien, je vous fais un avoir.
On dit que le client est le roi, mais le roi des quoi? Là, il a bonne question.
Finalement, tout le monde va payer par carte bancaire et c'est ce que cherche Big Brother. On saura tout sur nous. Et pour Mme Gallic, l'Europe est une zone géographique, rien de plus, n'en déplaise aux nostalgiques de la grosse Europa.
Ah, madame Gallic, grosse Europa.
C'est quand même un peu une zone de civilisation aussi, je pense.
Ah, vous êtes démasqué.
Grosse filou.
Et il n'y a pas que l'Allemagne en Europe.
Pourquoi pas nostalgique de l'Empire romain?
Non. Moi, je suis très... Je crois que ce que je viens de dire sur l'Italie, j'ai une très profonde nostalgie de l'Empire romain.
De toute façon, on vit toujours sur les bases européennes en matière de langue, de droit, etc.
Et même de l'Empire romain.
Si on n'avait pas obligé les Russes à repartir en 1814, on serait bien plus tranquille.
Et d'autant plus que avant le moustachu susnommé, avant l'Autrichien, il y avait quand même un Corse qui avait aussi pensé à la question de l'Europe.
Bien. D'autres choses? Non, pas d'autres messages avouables, en tout cas. Bien. Autre sujet que vous avez retenu dans l'actualité récente, qui vous paraît...
Les reculs de Mme Guigou sur deux points. Même, c'est invraisemblable. Elle fait machine en arrière.
Jospin fait machine en arrière.
Oui,
elle aussi.
Oui, non, mais il oblige à se déjuger complètement. Oui.
Dans ce cadre-là, il y a une chose, je ne sais pas si vous avez vu dans la presse un peu.
Vous pensez la même chose que vous, on pense à l'hymne de la mairie de Paris qui commence par c'est quand j'avance, Alors donc vous nous dites
en Savoie, dans une prison de Savoie à l'heure actuelle, on forme les prisonniers à l'escalade. Oui. Vrai.
C'est dans
oui, c'est... Oui, oui, c'est...
Mais je pense qu'on le fait en France aussi. Hein.
Non, mais en Savoie.
La
pardon.
Savoie.
Oui. Je veux bien. Oh là là. Tu rognes, même sur l'Hexagone.
Vous allez un peu vite en besogne, mon ami.
Non, mais
vous
ça fait...
un peu loin le bouchon. Oui, alors donc on forme les prisonniers.
Non, moi je crois qu'il faut un peu revenir sur la politique française et que là le gouvernement de M. Jospin va tout faire ces derniers mois pour essayer de maintenir un aura qu'il est en train de perdre parce que là l'affaire des médecins, l'affaire de la justice où on revient en arrière, c'est quand même assez considérable. Bon, moi je suis ministre Guigouge, je donnerais ma démission.
Il y a eu un événement énorme. Qui apparemment est passé à peu près inaperçu, me semble-t-il, c'est le discours des vœux du chef d'état-major des armées, qui, devant Chirac, a dit, en gros, bon, vous avez cédé devant les gendarmes, vous avez vu que l'armée s'est tenue à carreau, mais maintenant, il faudrait peut-être penser à s'en occuper aussi. C'est la première fois
que... Le général Kelch a été très violent. Et le général Crène également, oui. D'ailleurs, les
c'est
deux.
C'est la première fois que ça arrive, une chose pareille. Alors, si on ajoute les manifestations de gendarmes, le ras-le-bol des flics qui en ont absolument par-dessus la tête et ça va finir par mal tourner, la patrouille judiciaire,
le délabrement de la magistrature,
qui est divisé en clans, noyauté par la racaille,
et divisé en clans hostiles
et qui provoque des incidents de façon systématique parce que c'est évident que la mise en liberté des terroristes turcs de Bar, c'est une provocation. C'est évident que la libération du trafiquant de drogue, Valérie, c'est une provocation. Tout ça, ça ressemble fort à des coups destinés à provoquer le mécontentement et à montrer le mécontentement, l'insatisfaction des magistrats. Si on ajoute tout ça, on est dans une situation réellement d'anarchie préinsurrectionnelle.
Et dans le ras-le-bol des enseignants.
Oui, mais ça, alors, entre nous, c'est pas très nouveau. Hein. Ils nous font le coup depuis tout le temps, quoi. Ils sont jamais contents.
Ah, c'est quand même...
C'est quand même de quoi être content aujourd'hui, quand
ils
reçoivent en quatrième une classe d'illettrés à qui...
Oui, mais la faute à qui?
Oui.
Qu'est-ce qui les a fabriqués? C'est les profs de cinquième qui ont fabriqué des illettrés
de quatrième. Non, parce qu'ils les ont reçus dans des conditions impossibles aussi.
Non. Oui. Enfin, là, je trouve que.
Et avec des méthodes idiotes.
Ils les ont adoptées, ils les ont voulues. Depuis, ça fait maintenant 50 ans que ça dure, cette plaisanterie. Hein. La réforme, enfin, les premières réformes de l'enseignement.
C'est les réformes dans les, peu à peu, les réformes Langevin-Vallon qui avaient été prévues au lendemain de la libération. Qui avaient fait l'objet de vives critiques parce que c'était véritablement d'une réforme pour créer un prolétariat intellectuel.
Évidemment.
C'est-à-dire faire des gens avec bac plus 2, plus 3 grades, ne sachant rien et n'ayant pas de profession. Et finalement, sachant rien faire d'autre, mais que de l'agitation. Là-dedans, il y a quand même une sorte d'abrutissement général de ces générations qui voulaient former comme ça, qui freine un peu leur virulence. Et ils n'avaient pas compté là-dessus.
Mais c'est-à-dire qu'ils rentrent dans la fonction publique.
Parce qu'ils sont même plus capables de lire la vulgate abrégée de Marx-Lénine.
Ça, je ne sais pas si vous avez entendu, je crois que c'était hier sur France Info, ils interrogeaient une enseignante de quatrième pour l'année Victor Hugo.
Oui.
Et l'enseignante expliquait que Notre-Dame de Paris ou Les Misérables, c'était trop difficile pour les élèves et qu'elle pensait qu'elle aurait des problèmes parce qu'ils n'arriveraient pas à lire les extraits de texte.
Il y a une élève qui a été interviewée à la télévision qui a dit, moi je comprends rien, c'est trop compliqué pour
on regarde les images.
Oui, mais
ceci
vient de fort loin. Si vous consultez l'anthologie de la poésie française dans André Gide, dans la Pléiade, qui a dû être faite vers 1947. Peut-y un peu plus tard, mais la préface est écrite en 47. C'est, en termes beaucoup plus nobles que ce que je veux dire, c'est Hugo qu'on n'est pas. Pas Gide, mais c'est la mélancolie d'Hugo, de Gide, de voir que Hugo, que même ceux à qui il les fait lire, c'est encore des jeunes gens, ceux au moins d'André Gide, qui sont capables de lire Hugo, mais ça leur dit plus rien. Ça leur dit plus rien, il raconte déjà. Donc, ça vient bien de...
Oui, mais enfin, il faut pas oublier, là, en plus, on s'adresse
ne pas, serait-ce que par la démographie, à des catégories auxquelles Hugo ne peut rien dire.
Mais il n'y a qu'à le renseigner Omar Khayyam. Est-ce que ça marchera mieux?
Allez donc à l'Institut du monde arabe, lors des... Si vous ne voulez pas avoir du tout de beurre, allez à l'Institut du monde arabe. C'est...
Ah bon? Pour l'éducation, c'était comme pendant la guerre, il fallait aller en Allemagne pour pouvoir avoir des soldats allemands parce qu'ils étaient tous dans les pays étrangers. Donc finalement, c'est ça, quoi. Pour pas avoir d'arabes, aller en Algérie. Parce qu'il en a, il en reste quand même.
Et la seule chose à laquelle on arrive, vous avez dû voir, c'est Ségolène Royal qui a suspendu 5 enseignants parce qu'ils avaient osé pratiquer des fouilles. Qu'il y avait eu
un vol important,
parce qu'on n'a pas donné de détails. À mon avis, c'était une... Bon, c'était évidemment, nous avons immédiatement suspendu ces enseignants quant à eux.
Pour ce qui concerne l'éducation nationale, il ne faut pas oublier qu'en 1980, aux assises de l'éducation nationale à Clichy, Pierre Monroy déclarait « Les enseignants sont les multiplicateurs du socialisme ». On voit le résultat de l'opération maintenant.
Mais on a abandonné en route notre camarade Jean-Claude Van, qui nous parlait de Mme Guigou.
Ben, moi, je pense que c'était quelqu'un qui devrait donner sa démission, puisqu'elle vient de deux fois de suite de se ramasser une veste. Ou une jupe, j'en sais rien. Mais franchement, je pense que
c'est... Pas un peu sexiste, cette plaisanterie, là. C'est chiant, hein.
Et moi, non, mais la jupe, c'est pour les Écossais.
Non, moi, là j'avoue qu'en deux jours, être obligé de reconnaître que oui, pour les médecins, finalement, il va falloir les augmenter. Voilà des gens qui travaillent 58 heures et ils avaient le droit à 115 francs de visite. Ils demandent 135. On les envoie balader, et maintenant elle dit, après tout, c'est une corporation qu'il faut aider. Elle revient en arrière.
Cette histoire de médecin, c'est totalement extravagant, parce que j'écoutais ce matin un médecin, justement, qui expliquait, il a pris un exemple qui me paraît parfait, totalement démonstratif. Il est en Normandie, et alors, il disait, il y a quelques années, la visite était à 115 francs.
C'est ça.
Et quand j'allais de tel endroit à tel endroit, je payais 115 francs de péage sur l'autoroute. Bon. Donc le péage de l'autoroute me coûtait le prix d'une visite. Bien. Aujourd'hui, la visite est à 115 francs, et quand je prends l'autoroute, le péage me coûte 159 francs.
Ah, très bon. Très
voilà,
bon.
C'est tout. Oui. Alors, vous comprenez, on ne peut pas augmenter les médecins, mais on a quand même augmenté les autoroutes. Et je suis persuadé qu'il y a plus de gens qui payent le péage d'autoroute que les visites médicales.
Certes, mais ce n'est pas remboursé.
Voilà, c'est ça l'explication.
C'est le problème du conventionnement.
Mais il paraît que la sécurité sociale ne peut pas payer, et il paraît d'autre part que... Enfin, il ne paraît pas.
Elle peut payer pour les 35 heures.
Voilà, l'État qui ne peut pas payer les médecins était prêt à voler la sécurité sociale pour payer les 35 heures. Oui, oui. Ces gens-là se foutent du monde, littéralement.
Évidemment, une fois qu'ils ont payé les 35 heures, pour payer les médecins.
Et elle essaiera de voler la sécurité sociale pour financer les 30 milliards dont nous parlait Jean-Claude de passage à l'euro.
Alors, on peut dire que il y a deux façons de voir les choses. On pourrait dire, d'une certaine manière, c'est du gens qui essayent d'aller au plus urgent, de boucher les trous en prenant l'argent là où elle est et en la transportant là où elle n'est pas. Et on ne peut pas leur en vouloir. C'est des citoyens, c'est des hommes politiques ou des femmes politiques, mais ils essayent de gérer le pays tant bien que mal, etc. Mais ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est qu'ils sont en train de faire toutes ces gesticulations pour asseoir le pouvoir de leur mafia. Encore mieux pour avoir un président de la République qui soit de chez eux.
Oui, parce que c'est pour voir, payer la campagne. Il faut voir, c'est que c'est évidemment ça, c'est que ça s'inscrit dans un processus, dans un calendrier électoral.
Voilà.
Et je pense qu'il va falloir en parler parce que ils essayent de satisfaire un certain nombre de catégories. Oui, on se rend compte que depuis 7 ou 8 mois, toutes les catégories, qui tapent un peu fort du poing sur la table, obtiennent satisfaction. Pourquoi ? C'est parce qu'ils veulent. Moi, à mon avis, d'ici un mois, ça va être, je pense, un ou deux mois, parce qu'ils tiennent moins bien leurs troupes qu'avant. C'est tout à fait possible qu'on ait une grande grève des enseignants, qui demande un petit coup de pouce significatif avant les législatives.
Pour empêcher les grands coups de poing qui prennent dans la figure à longueur de journée.
Et là, de toute façon, il y a la pénibilité, travail difficile, etc. Enfin, ils vont vous dire, ils vont demander maintenant la retraite à 50 ans.
Nos élèves ne savent rien.
À mon avis, ils vont lâcher. Je pense que c'est la prochaine catégorie, puisque de toute façon, mis à part les médecins, mais pour le moment, ceux qui ont obtenu satisfaction, c'est exclusivement des fonctionnaires. Bon, donc à mon avis, il va y avoir d'autres catégories de fonctionnaires qui vont se mettre en grève d'ici
peu. Sûrement les pompiers également, voilà, qui n'avaient pas obtenu satisfaction il y a 2 ans, et qui sont tout à fait lésés maintenant par rapport aux autres.
Plus le gouvernement lâche, plus les autres, les groupes de pression, savent que le gouvernement a des chances de lâcher.
C'est pas autrement surpris. Alors, que les transports routiers s'y mettent aussi.
Il y a une hypothèse que je voudrais soumettre à votre
sagacité. Et les gardiens de prison.
Anne-Merlin Chazelas a écrit dans le Libre Journal que, en réalité, quand on dit que Jospin lâche tout, c'est pas la vérité. C'est pas par peur qu'il lâche. C'est pas par résignation.
C'est par calcul.
C'est par calcul. Oui. C'est qu'il est en train de casser un système. Il le fait volontairement parce qu'il sent bien que chaque fois qu'il abandonne un peu de la puissance publique, un peu de la souveraineté nationale, un peu du pouvoir de l'État, c'est la structure même du pays qui l'ébranle encore un peu plus. Et elle dit, là, on a véritablement le travail de la taupe trotskiste qui a atteint son niveau maximum de nocivité. Qu'est-ce que vous pensez?
On a là la réponse sur le terrain à la question, quand Jospin, à quelle date a-t-il cessé d'être trotskiste?
Jamais.
Il n'a pas cessé.
Ouais.
Je vous donne tout à fait raison à tous les deux. Mais par exemple, sur la loi Guigou et sur l'arrêt Perruche, n'y a-t-il pas aussi, le gouvernement lâche, mais n'y a-t-il pas, justement, une certaine, au-delà de l'électoralisme, de la politiciennerie, etc., une certaine humilité? C'est-à-dire que, est-ce qu'il vaut mieux s'enferrosser dans l'erreur, ou est-ce qu'il vaut mieux reculer?
Votre hypothèse, qui l'aurait plutôt favorable, qui est honorable, serait plus vraisemblable si c'était le cas tout le temps. C'est-à-dire si chaque fois qu'ils commettent une erreur évidente, ils avaient l'humilité de reconnaître qu'ils se sont trompés pour revenir en arrière.
Il faut commencer quelque part.
Je doute que l'humilité soit la vertu première de M. Jospin.
Il y a surtout que, si on replace ça dans le dessin d'ensemble, le recul est bénéfique. Le recul est bénéfique, parce que le jour où ils ont accepté, purement et simplement, je ne dis pas que, enfin, quelle que soit qu'ils ont créé une situation où les gendarmes descendent en uniforme dans la rue, et où l'État recule devant les gendarmes en uniforme dans la rue, et où le rappel purement verbal à la discipline militaire ne vient que 3 semaines après, le dessin de destruction des structures de l'État
c'est
avance.
Un soviète.
Avance. C'est peut-être par humilité, on peut créer l'hypothèse que ce soit par humilité, mais en réalité, la volonté anarchique de destruction de l'État, des structures de l'État avancent.
Oui, surtout.
Et maintenant, on va voir l'armée.
Et ne se fait jamais, les reculs ne se font jamais, se font que sur des questions salariales. On n'a jamais vu un recul de l'État jospinien sur un problème social.
On veut encore aggraver.
Mais non, mais par exemple, il y a 1 an et demi, à peu près, ils ont voté le Pax. On nous a dit jamais d'adoption. Oui. Par les couples homosexuels. Et maintenant, on nous dit, bien sûr, l'adoption.
Oui.
Bon, il n'y aura jamais de recul là-dessus.
Oui.
La seule chose qu'on fait, c'est qu'on continue à augmenter les salaires des fonctionnaires. Bon, alors, ils peuvent reculer autant qu'ils veulent, puisque de toute façon, c'est les Français qui finissent par payer. Mais il n'y a jamais de recul, il n'y a jamais d'humilité sur la question sociale. Il y a une destruction accélérée.
L'histoire de l'adoption, c'est tout à fait intéressant, parce que on voit la méthode de ces gens-là. L'obstacle principal à l'adoption par un couple homosexuel, c'était pas du tout un obstacle moral. L'idée de donner un enfant à un couple homosexuel ne choquait pas du tout les gens au pouvoir. L'obstacle légal, c'était que, de par la loi, il était impossible à un couple non marié d'accéder à l'adoption. et le Pax ne se substituait pas au mariage. Ils ont dit 100 fois que le Pax n'est pas un mariage. Donc, ce mur de l'impossibilité pour un couple non marié d'adopter un enfant restait plein et entier. Et là, au nom de la nécessité d'améliorer les conditions de l'adoption, de rendre l'adoption plus facile et plus sûre, etc., il y a une loi qui est en train de passer en ce moment qui a décidé que, parmi les obligations qui étaient supprimées, c'était, il y avait l'obligation du mariage. Désormais, on pourra adopter, un couple pourra adopter un enfant, même s'il n'est pas marié. Et donc, l'étape qui va venir tout de suite après, ce sera de dire, mais au nom de quoi, au nom de quelle injustice, au nom de quel refus de l'égalité, on va décider qu'un couple homosexuel qui est parfaitement légal, puisqu'il est légalisé par le Pax, aurait moins de droits qu'un autre couple de concubins, paxé lui aussi, mais de sexe différent. Et par conséquent, on ne peut pas interdire à un couple homosexuel d'adopter un enfant, et si on tente de le faire, ça ira devant la haute cour, ou devant la cour de cassation, et puis s'il le faut, on ira devant la Cour européenne de justice, et ainsi de suite. Et pas d'amour. Donc, c'est parfaitement clair. On voit la stratégie, la tactique qui a été développée, et c'est parfaitement clair que dans les mois qui vont venir, l'adoption par un couple homosexuel va devenir tout à fait légale, facile, et ça va devenir plus facile que pour un couple hétérosexuel. Parce que il faudra, en quelque sorte, compenser, et il faudra lancer la machine. Et vous allez voir.
On n'est pas homophobe.
Et voilà. Et montrer surtout qu'on n'est pas homophobe. Et vous allez voir qu'il va y avoir.
Et tout le monde sera d'accord.
Formidable. Et tout le monde. Et on fera des sondages où on vous dira, mais 56% des Français sont d'accord, 72% des Français, 86% des Français, 108% des Français sont d'accord.
Voilà. Et comme Serge, je lance un pari sur l'avenir. Je pense que d'ici 20-25 ans, on en viendra à légaliser de facto la pédophilie sous prétexte que les adolescentes sont plus précoces, patin coup fin. On rabaissera l'âge des rapports sexuels d'autorisation de 15 à, je sais pas, 13 ou 12.
L'âge des rapports sexuels consentants.
Voilà.
Là, on a le consentement.
De 15 à 12.
Oui. Victoria.
Est-il vrai que les Allemands ne détruisent pas leur marque?
Jawohl.
Y a-t-il une préférence à l'embauche européenne?
Non, c'est interdit.
Non,
en France, en tout cas, c'est interdit.
Non, il n'y a pas. Puisque les mesures de Vitrolles, par exemple, étaient pour les familles, pour la naissance, pour lesquelles il y a eu des condamnations pénales, la prime à la naissance d'un ménage français ou européen. Oui.
Non, mais la question n'est pas claire, parce que de toute façon, il n'y a pas de législation européenne sur les questions d'emploi actuellement. Donc il est possible que dans certains pays, ça soit actuellement légal, et pas dans d'autres, même y compris à l'intérieur de l'Europe, puisque les législations ne sont pas encore harmonisées. Donc.
Oui, mais la discrimination nationale, religieuse, ethnique, raciale et sexuelle... est plus ou moins elle est dans la déclaration des droits ou dans je ne sais quoi de l'Europe, elle est dans les, la première loi Pleven a été la transcription en France avec beaucoup de retard d'une recommandation des Nations Unies. Alors oui, la loi Pleven c'était
72-73. Pleven-Terre-Noire.
Les auditeurs vous proposent deux sujets. C'est, que pensez-vous? Pouvez-vous nous expliquer les causes réelles de la catastrophe monétaire en Argentine? Et puis, pouvez-vous nous parler des déclarations d'Ariel Sharon sur l'antisémitisme en France? La France est le pays occidental le plus antisémite en visant les Maghrébins.
C'est pas Sharon, c'est un de ses ministres qui a dit ça.
Non, Sharon lui-même.
Et l'ambassadeur d'Israël, d'ailleurs, a naturellement, c'est son métier, il est ambassadeur en France, a arrondi un peu les choses en disant, ce qui est d'ailleurs fort intéressant comme liberté de parole, c'est pas la France qui est antisémite, c'est les populations d'origine maghrébine.
Ouais. Ce qui est intéressant, c'est la...
Oui, c'est intéressant.
C'est la déclaration de Kukierman, le président du CRIF, quand il rentre de son voyage il y a quelques semaines d'Israël, et il dit la France est actuellement extrêmement dangereuse pour la communauté juive, puisque d'une part, c'est extraordinaire, d'une part, il y a, c'était dans l'actualité juive de fin décembre, d'une part, il y a
4 millions de Français qui votent pour Jean-Marie Le Pen, et de l'autre côté, il y a 6 millions de beurres.
Oui.
C'est extraordinaire.
Et il y a en même temps la prime spéciale, les conditions spéciales aux Juifs venant de France qui viendraient s'installer en Israël. Parce qu'avec ça...
D'Afrique du Sud et de France, nous sommes placés sur...
Il y a une certaine inquiétude israélienne de voir que l'immigration chez eux de Juifs, de Juifs de la diaspora, a baissé gravement. Et donc, ça rentre aussi dans les moyens par lesquels ils essaient de ranimer l'immigration juive en Israël.
Il y a une déclaration ce matin d'un responsable israélien qui, si elle avait été prononcée par un Français, aurait provoqué un cataclysme. Il a dit quelque chose comme lorsqu'on trouve un réservoir de population juive, on en profite. Pour expliquer les motifs de cette déclaration. C'est-à-dire de dire on a besoin de population en Israël.
Et la France,
est un réservoir de population juive, donc on en profite.
Et le second pays.
Alors, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, parce que il y a la partie. Après tout, qu'Israël ait envie d'avoir de la population, c'est la moindre des choses. Moi, je veux dire. Pour tout dire, ce Sharon me plaît de plus en plus. Moi, je voudrais qu'on ait un Sharon français. Il veut qu'on fasse des enfants, il veut que les gens soient, les nationaux soient chez eux, et que les étrangers soient à l'étranger. Ben, c'est à peu près ma politique aussi. Bon. Cela dit, il y a une chose qui s'est passée. Quand Kukierman a fait cette déclaration le soir du dîner du CRIF, devant 11 ministres français, dont le premier, c'est quand même énorme, c'est un manque de savoir-vivre considérable devant le ministre du pays de dire vous êtes un pays d'antisémites, vous êtes un pays d'assassins et de crapules, quoi. Bon. Et l'autre réplique pas. Bon, pas plus qu'il a répliqué quand les Arabes aussi.
Enfin, mais il a dit comptez sur nous pour combattre.
Oui, bien sûr, c'est ça.
Il a dit nous combattrons tous les comportements racistes contre toutes les communautés. C'est
ça. Et il y a eu quand même 9 jours plus tard la déclaration de Vaillant.
Mais pas disant que le lendemain.
Jamais il y a eu autant. Il y a eu aussi peu. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que, alors que depuis 30 ans, depuis l'affaire de la synagogue de la rue Copernic.
Oui, c'est depuis 20 ans. Voilà, les statistiques, là, les dernières du ministère de l'Intérieur.
On ne cesse de nous dire, l'antisémitisme en France augmente, c'est affreux, il y a des crimes antisémites, des agressions antisémites,
le rapport
des
annuel,
antisémites.
Le
rapport annuel, etc. Oui. Tous les ans, on en rajoute. Et c'est en augmentation de 25%, 29%, c'est affreux et tout. Quand on regarde les chiffres, effectivement, l'augmentation de 22%, c'est facile parce que il y en a 3 délits et l'année suivante, il y en a 4. Donc, ça fait 30%. Ça, c'est pas compliqué à calculer. Même moi, j'y arrive. En revanche, l'année d'après, quand il y en a plus que 3, ça ne fait qu'une diminution de 25%. Donc, le bilan de l'augmentation sur les 2 ans, c'est encore 5%. Ça, c'est des calculs de base. Et là, pour la première fois depuis cette époque, on a vu le ministre de l'Intérieur se mettre à publier des statistiques ahurissantes. Parce que, y compris les injures antisémites, les actes d'antisémitisme caractérisés, y compris les injures pour la période considérée, c'était 26.
Oui, non, mais ce qu'il faut. Un rapport annuel, dans le rapport annuel qui dit l'antisémitisme, etc., etc., quand on allait regarder les chiffres qu'il donnait, il donnait en effet des chiffres très maigres d'actes antisémitiques. Et la conclusion qu'ils en tiraient, c'est que la justice française était trop laxiste à l'égard de cet antisémitisme formidable en France, puisqu'on n'en a trouvé que 15 ou 26 dans l'année.
Mais il se trouve que
c'est que maintenant ne sont retenus. Avant, tout était agression antisémite. Maintenant, sont retenus comme agression antisémite celles qui donnent lieu à une interruption de travail.
Non.
Ah si.
Non, ça a été publié, mais c'est pas. Non, parce que par exemple, il y a les enveloppes contenant de la poutre blanche qui ont été envoyées, etc., qui ont entraîné l'évacuation de certains locaux qui sont intégrés dans les statistiques du ministère de l'Intérieur. C'est pas du tout uniquement des agressions violentes avec arrêt. Non, ça a été publié. Non. En revanche, ce qui est intéressant, c'est le rapport. Tout se fonde sur le rapport du CRIF. C'est un rapport de 21 pages que je me suis procuré. Et ce qu'il faut voir, c'est pour recenser 330 agressions en région parisienne sur un an, ce qu'ils ont été obligés de faire. Parce que dans les agressions et tentatives, etc., j'en publie une partie la semaine prochaine dans ma prochaine lettre. Il est indiqué, par exemple, un jeune maghrébin demande à un policier en faction devant la synagogue à telle adresse combien ils sont. Alors, autre exemple, il y a 4 fois, il y a distribution de tracts du GUD.
Ah oui,
voilà. D'accord. Il y a un mouvement syndicaliste, bon, c'est vrai, nationaliste, enfin bon, voilà. Il y a une dame qui se rendait à la synagogue et est agressée dans le métro. Bon. Il y a toutes les la 80% des événements qui ont permis au CRIF de dire il y a une montée de l'antisémitisme relèvent de ce genre de truc. Il y a envoi d'un mail antisémite au CRIF. Donc quelqu'un, un excité, va dans un cybercafé, envoie un truc. Alors ils mettent même les choses qui sont antisionistes, ou par exemple il y a incendie dans un foyer provoqué par un SDF. Bon, et tout est comme ça.
Dans un foyer, c'est normal qu'il y ait un incendie. Ils avaient fait plus fort dans leur rapport de 98. Ils avaient marqué comme acte antisémite distribution de tracts hostiles à McDonald's.
Voilà. Bien, bon, ça c'était notre minute de
sinon, rigolade. Il y avait une question sur l'Argentine. Oui. Je peux y répondre en 30 secondes.
Oui, répondez si vous êtes capable.
Attends, ça continue sur ce que vous disiez. Cet après-midi à l'Assemblée nationale, nous dit cet auditeur, en réponse à une question sur les attentats antisémites, le ministre a répondu, nous avons arrêté des gens d'extrême droite et d'autre part des jeunes qui agissaient visiblement sans motif apparent.
C'est fabuleux. Je ne savais pas qu'ils avaient arrêté des gens d'extrême droite. Mais en plus, s'ils sont d'extrême droite, ils ont des motifs apparents. Mais si c'est des beurs, ils n'ont pas de motifs apparents. Et vous avez vu d'ailleurs qu'à Bar, c'est la même chose. Ce n'est pas des attentats, ce sont des actes d'incivilité.
C'est de la bêtise.
De la malveillance.
La malveillance. Alors que... comment s'appelle-t-il aidez-moi, ce jeune homme qui est en prison depuis...
La joie.
La joie n'a pas fait pire.
C'est ce que j'écris cette semaine.
Il a posé un pétard dans un café turc, il n'y a pas eu un blessé.
Non, algérien le café, et il n'y a pas eu un blessé.
Il n'y a eu que des dégâts matériels. Voilà. Mais les agresseurs de la synagogue de Créteil et de l'école Osa Torah ont été condamnés en comparution immédiate à 3 mois de prison avec sursis. Or, l'école n'a pas pu y avoir de rentrée parce qu'elle était trop détruite. On est exactement dans le cas de la joie. La joie avait pris la réclusion perpétuelle avec peine de sûreté de 18 ans.
Et il est toujours en prison depuis...
Il est toujours en prison.
11 ans.
Il est à la 14e année.
14 ans. Bien, et ben il est 7h30. On a fini. Donc, je vous donne la parole juste après la coupure technique pour répondre sur l'Argentine. Et puis, on donnera les adresses auxquelles les auditeurs pourront s'abonner en euros ou en monnaie d'occupation ou en quelle que soit la monnaie que vous voulez.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 9 janvier 2002 de 18h à 21h, en différé jeudi 10 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Donc nous continuons cette émission et ce clan de la presse, nous le terminons par une brillante intervention de notre excellent camarade Henri de Fersan, sous contrôle vigilant de Camille Gallic. Alors pourquoi l'Argentino va-t-il remplacer le peso?
Eh bien, Don Corleone, il pourrait t'expliquer ceci, mon petit. Tout simplement, les instances mondialistes en 1991 avaient convaincu l'Argentine. Bon, déjà, ils avaient convaincu l'Argentine en 1982 de se débarrasser de sa junte militaire qui n'avait eu que tort de liquider la guérilla communiste et de mettre à la place un régime démocratique où, bien sûr, or et pistoles pleuvraient sur l'Argentine tant que ça pourrait. Donc, les régimes démocratiques étant ce qu'ils sont partout dans le monde, même en Argentine, l'Argentine s'enfonçait de plus en plus dans la crise. Donc, en 1991, les instances mondialistes ont proposé au président argentin une idée géniale, brader tout les entreprises argentines d'importance et grâce à la cagnotte ainsi amassée, lancer un programme d'investissement qui permettrait à l'Argentine de se développer. Le problème, c'est qu'évidemment, la mafia politique argentine, qui est exactement la même que la nôtre, s'est partagée le gâteau. Et résultat, l'Argentine n'a plus l'argent des entreprises, puisque c'est quelques politiciens locaux qui ont pris le magot. Et elle n'a plus d'entreprise à vendre, puisqu'elle avait tout vendu pour reconstituer la cagnotte susnommée. Donc, inutile de vous dire que l'Argentine est plutôt très mal partie. Et j'irais jusqu'à dire, sans vouloir jouer les prophètes ou de malheur, que la situation actuelle de l'Argentine fait furieusement penser à l'Allemagne de Weimar, sur le plan politique ou sur le plan social.
Ah ben c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça. Camille, vous avez un commentaire
en vous approchant du micro. Pas une mauvaise nouvelle, mais je crains qu'il n'y ait pas beaucoup de relève en Argentine.
Le problème de l'Argentine, c'est un peu le problème de diverses nations sud-américaines. La seule élite et la seule colonne vertébrale solide dans ce type de pays, c'est généralement l'armée.
Or, l'armée... Ne dites pas ça aux péronistes.
l'armée a toujours joué un rôle dans ces contrées. Bon, certes, l'Argentine n'est pas la Bolivie, mais bon, l'armée a quand même joué un certain rôle dans la vie politique argentine.
Comme euphémisme, c'est pas mal ça.
Mais le problème, c'est qu'avec le règlement, donc le solde des comptes, si vous me permettez ce terme un peu cynique, du temps de la junte militaire, fait que je ne sais pas si l'armée argentine a envie de retenter l'expérience à nouveau. Et de plus, je doute que du côté des banques internationales, le retour, surtout avec la disparition maintenant du bloc de l'Est et donc de la guerre froide, le retour au pouvoir, aux affaires d'une junte militaire en Argentine soit spécialement bien vu. Alors, je ne sais pas comment vont tourner les choses en Argentine, ou alors est-ce que les mouvements sociaux permettraient de remettre en selle en Argentine des mouvements d'extrême gauche qui avaient été éradiqués, qui ont été à deux doigts de prendre le pouvoir en 1975 et qui avaient été totalement éradiqués par la junte militaire du général Videla. Ça, l'avenir nous le dira, mais je pense que l'Argentine se prépare à un avenir très difficile et probablement plus difficile qu'elle ait vu depuis au moins 25 ans.
Sûrement, avec cette circonstance aggravante qu'il y a maintenant en Argentine, pas mal d'immigrés andins. C'est-à-dire que dans un pays qui était très homogène racialement, il y a maintenant de plus en plus d'indios venus de Bolivie, du Pérou,
du Paraguay. Surtout
des pays andins.
Il faut voir que l'Argentine, au dernier recensement, l'Argentine comptait moins d'Indiens que de Français.
Bien.
C'est pour ça que sa situation n'en est que plus étonnante, d'ailleurs.
Oui, parce que c'était avec l'Uruguay, le pays le plus européanisé, et il n'a jamais décollé. Puisque l'Argentine était la 7e puissance industrielle en 1945, elle est la 13e actuellement. Et il faut voir qu'en 1939, le produit national brut de l'Argentine était supérieur à celui de l'Allemagne.
Oui. C'est comme on le disait, c'est un pays d'avenir et qui le restera.
Qui restera. Une belle formule.
On parlait des jaguars ou des dragons. L'Argentine, c'est un émeu. C'est l'oiseau qui ne s'envole jamais.
Merci de ces éclaircissements.
Les auditeurs demandent où en sont la quête des signatures pour l'élection présidentielle.
Est-ce que vous avez des informations, Jean-Claude?
En ce qui concerne le Front National, Jean-Marie Le Pen a répondu ce matin à une conférence de presse, comme quoi il avait à l'heure actuelle 400 signatures. Par contre, il s'élevait un petit peu contre la position de 60% des maires qui ont prétendu qu'ils ne voulaient pas s'occuper de politique et qu'ils ne voulaient surtout pas intervenir dans la signature concernant les maires. C'est quand même inadmissible de la part d'un maire de ne pas s'engager pour n'importe quel parti dans une élection présidentielle. 60% des maires ont déclaré qu'ils ne voulaient pas s'en mêler. Alors Jean-Marie fait un appel quand même à ses maires pour quand même qu'ils accomplissent leurs devoirs.
Parce que sur eux pèse une menace constante.
Bien sûr, c'est le terrorisme pur et simple.
Une menace constante, les noms seront publiés, les noms seront connus, et aux prochaines élections, leur premier adjoint se prendra la tête d'une liste disant que le maire a défiguré l'image de la commune, l'image de la mairie, par ce geste imprudent.
Et oui, les maires commencent à s'apercevoir qu'on est en démocratie.
Comme le disait Monsieur Chirac en recevant des parlementaires RPR, c'était dans l'Observatoire, surveillez bien les maires socialistes qui voteraient pour Le Pen, il faudra rendre public leur nom. Il s'agit là du premier magistrat de France qui appelle donc à la délation.
Et la nuit dernière, j'ai entendu M. Philippe de Saint-Robert appeler ouvertement à voter pour M. Chevènement.
Ben oui.
Et on pose une autre question. Le candidat.
Ça sert à rien, il n'aura toujours pas d'article favorable dans Charlie Hebdo, hein, même s'il appelle à voter Chevènement.
Mais qui
Philippe de Saint-Robert appelle dans une émission d'hier, c'est les autres.
Lui, je ne connais pas. Non, c'est parce que M. Raphaël Tartampion appelle à voter, Millet.
Oui. Alors justement, j'ai une autre question à propos de candidat Nicolas Miguet. Est-il réellement membre d'une secte?
Il faut lui poser la question à lui.
Oh, si il est membre d'une secte, ça doit être la secte miguetiste.
Et puis une.
Mais pourquoi on parle de tous ces inconnus, Monsieur Saint Miguet, Monsieur Robert de. Il y a le seul nom que je connais dans la bande, c'est comment vous avez dit le
Chevènement.
Voilà. Mais Philippe Chevènement, l'homme qui a pas de cerveau.
Philippe de Saint Miguet, vous le connaissez, non? Philippe de Saint-Miguet.
Je connais le journal de Miguet.
Ah voilà, oui, c'est
le
ça.
Le journal de Miguet.
Rappelons que c'est quand même le seul quotidien qui paraît chaque mois
et le journal boursier qui n'enrichit que son propriétaire.
Ben, c'est déjà ça, remarqué.
Ben oui, c'est fait pour ça d'ailleurs.
Une dernière question à propos de la manifestation de commémoration de la fin de la guerre d'Algérie. Tout à l'heure, nos invités nous ont dit que c'était le 15 janvier à 8h30. Mmh. Et là, je reçois le comité de liaison du Mémorial de l'honneur du peuple français, appelle à une manif le 15 janvier toujours, à 9h30.
Mais ça, c'est pour ceux qui se lèvent plus tard.
Ainsi que le SCNC. Alors, les gens qui sont au courant, chers auditeurs, vous savez tout, écrivez-nous.
J'ai reçu également à 9h30 et on a annoncé.
Je vais vous donner l'explication. C'est parce que Bernard Anthony est insomniaque. Donc il se dit, comme de toute façon, moi je serai là à 8h30, autant que je ne sois pas tout seul. Alors il essaie d'introduire.
Il faudrait quand même que les
discrépances.
Que les organisateurs nous précisent avant la fin de l'émission.
Écoutez, l'essentiel c'est qu'ils soient d'accord sur le jour et le lieu. Oui. L'heure, ça n'a quand même pas trop d'importance. Sauf parce que 8h30, 9h30. En général, si on appelle. Je sais pourquoi Bernard appelle à venir à 8h30, c'est parce qu'il sait que comme les gens arrivent toujours avec une heure de retard, il y a des chances pour qu'ils soient là à 9h30.
Disons que nos amis viennent à 9h.
Voilà.
Comme ça, vous mécontentez tout le monde. Vous arrivez en retard pour ceux qui n'avaient pas annoncé 8h30, en avance pour ceux qui vous attendaient à 9h30. Bien.
Bien, merci. Alors, le rituel publicitaire. J'appelle Emmanuel Ratti à rejoindre son rang, enfin son poste, parce qu'on va faire le rituel d'annonce des adresses et des innombrables présents, cadeaux.
Mais il n'y a qu'un présent, le quotidien.
20 ans et toutes ses dents.
Le quotidien, écoutez, pour faire connaissance tout simplement, envoyez donc 100 francs et votre adresse, 100 francs français, et votre adresse, à présent 5 rue d'Amboise, Paris 2e. Et pendant un mois, vous recevrez présent.
Puisque vous êtes rétro, il faut dire.
Paris. Comment ? J'ai pas parlé de chèque. Oui, d'ailleurs, si vous voulez la contre-valeur en dollars ou en telle autre monnaie étrangère que vous voudrez, de 100 francs français.
Voilà. Mais enfin, si vous voulez être vraiment rétro, il faut dire présent, 5 rue d'Amboise, Paris 2e, Seine.
Oui.
Parce que.
Paris sur Seine, c'est Paris plus joli, comme disait Léo Ferré.
Camille Gallic, directrice de Rivarol.
Eh bien, les auditeurs qui voudront un numéro gratuit, ou s'ils veulent s'abonner, ils trouveront toutes les explications, peuvent en tout cas nous écrire à Rivarol, 1 rue d'Hauteville, 75-10 Paris.
Alors, d'Hauteville, il faut dire que c'est D'apostrophe Hauteville, H-A-U-T-E-V-I-L-L.
Oui, d'Hauteville, D'apostrophe et la vieille famille, voilà. La vieille famille des Hauteville.
Mais alors pour la rue d'Amboise, c'est rue d'Amboise, D'apostrophe aussi.
Voilà. Bien. Ou ils nous téléphonent au 01 53 34 97 97 ou gallic@rivarol.com.
Jean-Claude.
Oui, National Hebdo organise un spécial élection présidentielle le 3 février au Novotel Bagnolet en présence de Jean-Marie Le Pen qui exposera à nos amis son programme. Donc vous pouvez vous inscrire à ce déjeuner. 6 rue Vauguyon, Saint-Cloud, 92 210.
Pas rue de Vauguyon, non?
Non, pas rue de Vauguyon.
C'est dommage.
Et le prix du repas est 220 francs ou 33,54 €. Je tiens à remercier, j'avais fait une campagne, National Hebdo, nous avons fait une campagne pour le franc. Et de demander à nos amis de s'abonner en francs. Et je peux vous dire que ça a été une très belle réussite. À peu près 30% de nos abonnés se sont abonnés pour 2 ans ou 3 ans en francs. Merci.
Je suis jaloux. Monsieur Fersan.
Oui, alors donc pour avoir un exemplaire gratuit des lettres Fersan.
Envoyez 100 francs.
Non, 100 francs et 100 francs. Donc vous écrivez aux publications Henri de Fersan, boîte postale 18, 63 670, Le Sandre. Si vous voulez vous abonner, l'abonnement est de 120 francs ou 18 euros par an.
C'est chaud, hein, les lettres Fersan. Je vous le dis, c'est très très chaud. Il faut vraiment. C'est très incorrect. Hein.
Particulièrement.
Là, là, là.
C'est dans quel département ?
Emmanuel.
Oui, donc, fait les documents. Donc, fait ses documents. Donc, on peut me demander un numéro BP254. 75 424 Paris Cedex 09. On peut aller sur mon site internet.
Il faut que vous répétiez cette adresse robotique parce qu'elle n'entre dans aucune cervelle normalement constituée. Oui. Boîte postale
BP254 75 424 Paris Cedex 09.
Le journal est mieux écrit que ça, je vous le dis tout de suite. Hein, le...
Et documents, sinon, on peut aller sur mon site internet qui est www.faits-et-documents.com. Voilà, et je précise que le numéro qui est routé d'ailleurs ce soir comprend un portrait du nouveau président de l'AFEP, l'Association française des entreprises privées, qui est le principal lobby patronal français. Ce monsieur présente la caractéristique d'être à la fois le seul Français qui soit administrateur du Forum économique de Davos, membre de la trilatérale, membre du groupe de Bilderberg, membre de la table ronde européenne. Et
franc-maçon, non ?
Non, il n'a pas
besoin de ça. C'est même pas la peine.
Lois contre le cumul.
Oh, non. Et en plus, il est catholique, donc voilà.
Oh, bah alors, voilà,
il est sauvé. Et il y a l'anatomie, enfin j'ai disséqué le fameux rapport du CRIF, là, dont on a parlé tout à l'heure, sur la montée, entre guillemets, de l'antisémitisme. l'antisémitisme en France.
Et le tome 2 n'était-il pas déjà de l'antisémitisme?
Et le tome 2 de
il ose parler de tome 2, Serge Becquet. Il ose parler de tome 2.
Il n'y a pas de raison que je sois le seul enquiquiné dans cette histoire.
Serge Ostou, et c'est pour ça qu'on l'aime.
Merci à tous. Vous voulez pas donner votre adresse, Victoria, non?
Non, bon. Ce que je veux vous dire, c'est que je ne sais pas où vous avez entendu parler de que Philippe de Saint-Robert appelait à voter Chevènement. Moi, je ne me souviens pas l'avoir entendu.
Mais qui sont ces gens?
C'est enfin, quelqu'un. Attendez.
Est-ce qu'on nous bassine avec des...
Monsieur le... Serge de Becquet, vous êtes la honte de Radio Courtoisie. La honte. Vous attaquez des candidats de droite comme Miguet. Mais nous ne vous entendons jamais attaquer l'aiguiller ou le mollusque Bayrou.
Pourquoi vous me bassinez avec Miguet, Saint-Robert, Chevènement, des gens de... On n'en a jamais autant entendu parler. Moi, je d'ailleurs, Miguet n'est pas candidat, il est directeur de journal, et je répète, moi j'étais abonné, quand j'avais 6 ans, mon oncle, Loloc, m'avait abonné au journal de Miguet. Donc j'ai gardé beaucoup de sympathie pour ce petit personnage avec des grandes oreilles et des grosses chaussures rouges et une queue noire, longue.
Il avait un défaut de langue, votre oncle.
Le journal de Miguel. Merci à tous de votre patience et de votre assistance publique.
Confirmation. Philippe de Saint-Robert a bien indiqué hier soir qu'il voterait pour Chevènement. Attendez, ça continue. J'insiste lourdement avec le commentaire suivant. Pour qui d'autre voulez-vous qu'on vote? Et d'ailleurs, le général Gallois aussi votera pour le...
Pour Philippe de Saint-Robert. L'affaire se complique. Merci à tous. Et au mois prochain pour le clan de la presse de février.
Serge, et bonsoir aux auditeurs.
C'est très joli cette petite musique. Franck, vous avez beaucoup de goût. Merci de nous choisir des jolies musiques comme ça avec un... Comment ça s'appelle cet instrument? Une bombarde, voilà. Une bombarde. Monsieur l'abbé, bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur l'abbé Cellier. Vous devenez un habitué de cette émission, finalement.
Ben je suis très content de vous avoir invité à cette émission.
Je constate qu'ils sont partout. Hein. Alors, l'abbé Laurence est dans l'émission de Claude Giraud, ouais. L'abbé Cellier. Des fois, il y a le père Argouache qui vient. Enfin, non, ils sont pas. C'est curé, vraiment. C'est... Enfin, bon.
Est-ce qu'on peut faire une petite annonce?
Oh, bah, tu entends que vous le dire, bien sûr.
C'est que nous sommes le 9 janvier, j'espère que vous le savez, que nous sommes le 9 janvier.
Oui, ça ne m'a pas échappé, oui.
Voilà, et c'est donc la Sainte Alix. Ah. Et je rappelle que d'abord que Alix est la sœur de Petit Ange.
C'est vrai.
C'est très important.
C'est vrai, c'est une de mes idoles.
Petit Ange, 22 volumes.
22 volumes.
Et j'en profite, parce que j'ai promis de le faire, j'en profite pour saluer et fêter bonne fête à Mademoiselle Alix, 4 ans et demi, qui écoute cette émission. Très important.
Message personnel.
Lourd secret de famille, là. Bon, alors, Alix, 4 ans et demi.
4 ans et demi.
On peut lui faire un gros bisou. Alors.
Voilà, je pense qu'on peut aller jusque-là.
Un gros bisou à Alix. C'est un très joli prénom, Alix. Bien, alors, vous publiez donc le numéro de janvier-février 2002 de Fidélitaire, numéro 145, qui est le meilleur numéro depuis que Fidélitaire existe.
Voilà, depuis 145 numéros. Ouais. Donc on peut quand même noter déjà, rien que les gens qui participent, c'est un record d'avoir réussi à réunir ses plumes dans le Fidélitaire numéro 145. Il y a Monsieur Serge de Becquetch, un grand auteur bien connu.
C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un très bon numéro.
Voilà. Il y a Yves Daoudal, il y a Martin Pelletier, il y a Dominique Morin, il y a le Docteur Dor, il y a Maxence Écart, il y a Benoît Mancheron, il y a Maître Georges-Paul Wagner. Donc c'est quand même un.
Il faut citer Jean-Pierre Dicasse aussi.
Voilà, Jean-Pierre Dicasse.
Et puis Alexandre Moncrief.
Voilà, c'est ça, des tas de gens comme ça. Donc on a réuni, c'est un beau numéro qui a réuni des belles plumes.
Et puis il y a un article. Alors c'est un article 2 ou un article sur Georges Paul ?
Non, c'est l'article 2, Georges Paul Wagner, sur Barrès, à l'occasion du centième anniversaire de leur figure. On a un très beau roman sur le scandale du Panama, qui est une actualité criante.
Avocat honoraire depuis quelques jours, ce qui m'a permis de lui dire hier soir que on reconnaissait un avocat honoraire, au fait qu'il ne touchait plus
voilà, les honoraires avaient largement baissé.
Voilà. Et qui est devenu président d'honneur de la Griffe.
Voilà, il est, me semble-t-il, il est le président aussi de le syndicat de la presse monarchiste. Ouais. Catholique, je crois.
Oui, c'est un grand bonhomme. Je voudrais faire un jour une grande émission avec lui sur ses livres, parce qu'il publie des choses magnifiques.
Je viens de lire ses souvenirs, là, l'entre-trois-guerres, c'est passionnant.
Voilà, mais enfin, là, on parlait du numéro de Fidélitaire, dont le titre est l'enfance enfance menacée.
Voilà. Bah alors, allez-y.
Alors, ben non, je vous...
Voilà, je pense que c'est un numéro qui est très agréable à lire, parce qu'il est très tonique, très, très encourageant. C'est notamment cette dimension-là que je trouve dans ce numéro 145, quelque chose qui vous encourage à agir, à aller de l'avant. Donc il y a effectivement ce dossier sur enfance menacée, qui est malheureusement un dossier qui est d'une criante actualité, puisque vraiment on voit de partout, donc l'enfance est attaquée de partout, à la fois par la loi, par la déliquescence de la société, etc. Mais nous faisons l'état des lieux, n'est-ce pas, sur les menaces qui pèsent sur l'enfance, mais en même temps, nous avons mis 3 témoignages d'espérance, ce qui peut être fait pour, si je puis dire, inverser le courant, inverser la décadence, inverser la destruction. Donc, on a un témoignage individuel, c'est celui de Dominique Morin, parti dans la délinquance, le squat, l'anarchie, la drogue, etc.
C'est un signe d'espérance vivant, hein, non, Dominique. Voilà. C'est quand même quel personnage. Moi, j'ai reçu à ce micro il y a des années, je crois, tout à fait au début de son évolution, mais au contraire, au moment où cette évolution s'est concrète, cette conversion, on peut dire, s'est réalisée, et je me souviens qu'il avait, il y avait une chape d'émotion qui était tombée sur l'émission, qui était vraiment formidable au sens fort du terme, et la réaction des auditeurs avait été très 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 forte. C'est un personnage.
Voilà, je pense que c'est quelqu'un vraiment qui témoigne à la fois de son parcours, de ses souffrances, puisque on sait qu'il a le sida, suite justement à cette vie malheureusement de la vie actuelle, enfin la vie, le laisser aller actuel qui mène finalement à la mort, mort morale d'abord et avant tout, mais éventuellement mort physique. Et en même temps, tout au long de cet entretien qui nous a accordé, ce recours à la grâce, cette espérance, ce désir de transmettre la lumière de ce qu'il a reçu, je crois que c'est très important.
Moi, il me fait penser à l'enfant prodigue.
Voilà,
c'est exactement l'enfant prodigue qui est revenu et qui est totalement bouleversé par cette conversion et qui va devenir un roc de résistance.
Voilà,
parce que c'est quand même ça aussi.
Voilà, il est courageux.
Physique, moral.
Voilà, et il témoigne. Il a fait des centaines, voire des milliers de témoignages dans les écoles, auprès des jeunes. Et il va auprès de ces jeunes qui souvent n'ont pas de repères, pas de valeurs. Et je crois qu'il les touche beaucoup. Donc, deuxième témoignage, c'est celui du docteur Dor. Alors là, c'est un témoignage plus médiatique, plus réussir effectivement à mener une action qui a un retentissement exceptionnel avec une poignée. Ils sont une poignée, les SOS tout petits, c'est presque rien, mais cette persévérance et puis cette confiance en Dieu, cette pertinence dans le combat, d'aller là où les choses doivent se faire, et mondialement, il est connu mondialement, ce docteur Dor, alors que c'est presque rien. Moi, je l'ai croisé un jour dans le métro, il est quasiment aveugle, il vous voit pas, enfin, mais cette chaleur, belle âme.
Et quand il arrive quelque part, il irradie littéralement la tendresse humaine, c'est aussi lui quelqu'un de...
Voilà. Et puis alors, nous avons mis un troisième témoignage qui est un Américain, qui a, par une mobilisation à travers Internet et des ONG mondiale, fait basculer, si vous voulez, dans une conférence mondiale de l'ONU, enfin des sous-produits de l'ONU, c'est vraiment le temple du mondialisme, qui voulait donc expulser le Vatican, le Saint-Siège, des organisations sur la famille, parce que le Saint-Siège s'oppose justement à l'effondrement des mœurs et à l'inversion des mœurs. Et donc, comment ce combat, qui a été mené avec habileté, avec intelligence, etc., a pu être gagner et à repousser au moins d'un certain nombre d'années ce mauvais coup qui était porté au camp de la vie. Donc ça, c'est ce dossier enfance menacée, à la fois donc l'état des lieux qui a un caractère dramatique, et en même temps ces témoignages d'espérance montrant que avec la grâce de Dieu, on peut réellement faire face et réagir et même parfois inverser le courant lorsque le temps est venu. Mais comme je disais, c'est un numéro très tonique parce que ce que nous appelons l'actualité de la tradition, c'est-à-dire l'ensemble de ce qui se passe dans le sein de la famille de la tradition catholique, eh bien tout est très très encourageant. Nous avons fait un petit reportage sur le pèlerinage à Lourdes, un pèlerinage que nous faisons tous les ans, et c'est la première fois que la grande basilique Saint-Pilice, celle qui reçoit tous les grands pèlerinages, nous a été ouverte.
Comment ça s'est passé ?
Bien, je pense, je vais vous dire, finalement, il nous voit tellement persévérants, il nous voit tellement actifs, il nous voit tellement dynamiques, et eux, ils sont en train de s'enfoncer, qui finalement, je crois qu'ils ont purement et simplement baissé les bras. Ils se disent, non, vous voyez, ils craquent devant la persévérance, la discipline, l'audace, vous voyez. Et je crois que finalement, avec la grâce de Dieu en plus, bien sûr, il y a eu l'aide de la grâce de Dieu, l'aide des anges, mais je crois que les ecclésiastiques craquent, quoi. Ils n'en peuvent plus, ils se disent, ils sont là tous les ans, et puis ça touche quand même les âmes de voir ce pèlerinage, cette prière, cette ferveur, etc. Et finalement, bon, bah, d'une année sur l'autre, les années précédente, ils nous avaient ouvert une église, mais un peu à l'écart, et là, ils ont carrément tout ouvert. Parce que
les photos sont belles. Hein.
Voilà,
les photos sont très, très belles.
Bon, c'est vrai que depuis deux ans, et c'est aussi une explication, depuis deux ans, on s'est senti assez fort, assez bien organisé pour faire venir les malades. Et donc là, il y a vraiment un pèlerinage classique de Lourdes, c'est-à-dire avec les malades, la présence des malades qui sont là pendant ce pèlerinage.
Il y a une photo avec les petites frangines de Sainte-Marie de Bordeaux qui est rigolote comme tout. Voilà. Elles sont étonnantes, ces sœurs. Il y a un tel bonheur de vivre quand on les voit dans le visage, dans les sourires, j'ai l'impression qu'elles sont tout le temps en train de s'amuser. Voilà, en général, les bonnes sœurs, c'est ça. Hein.
Voilà, c'est curieux. Elles sont heureuses parce qu'elles sont avec le bon Dieu, quoi.
Et alors, puis, il y a le reportage sur Bruxelles.
Voilà, le reportage sur Bruxelles, c'est quand même quelque chose là aussi d'exceptionnel. Nous avons acheté une grande église, une immense église qui est au cœur du quartier européen.
Mais qui est belle.
Une magnifique église qui est au cœur du quartier européen, du grand quartier de l'Europe. Donc, on vient de passer à l'euro, mais au même moment, une église de la tradition au cœur de ce temple du mondialisme, de l'anti-France, de tout ce qu'on veut, quoi. Et je crois que c'est aussi un grand signe, une chose importante. Il y a également un reportage qui est amusant et en même temps très tonique. Vous savez qu'il y a eu une explosion à Toulouse et que notre chapelle a été touchée par cette explosion. Et notre chapelle est inutilisable en raison des destructions pour de longs mois. Et le prieur, eh bien, chaque semaine doit trouver un lieu. Alors, c'est sans cesse des négociations avec l'évêque, qui a accepté un petit peu, puis qui l'a chassé, puis avec le maire, et notamment, il y a un moment extrêmement amusant, c'est qu'il apprend, le maire lui dit, mais non, on ne peut pas vous prêter de salle, parce qu'on ne peut pas prêter de salle municipale pour le culte. Et il apprend par la bande que la synagogue, qui a été elle aussi touchée, a pu avoir une salle municipale. Alors, il téléphone à la synagogue, qui lui confirme effectivement qu'ils ont eu une salle, parce qu'ils connaissent bien le maire, tout ça, et les juifs leur disent, mais si vous n'avez pas de salle dimanche, on peut vous prêter la synagogue.
Ah, c'est génial. Hein? Ah, c'est charmant, ça.
Alors, ça aurait été grandiose. Bon, ça ne s'est pas fait parce que il a téléphoné au maire en disant, mais comment se fait-il que la synagogue ait pu avoir une salle et pas nous? Et donc, le maire a trouvé finalement une salle. Mais je dois dire que cette proposition, si ça s'était fait, ça aurait été grandiose.
Ah, c'est charmant, je trouve.
Ça aurait été.
Cela dit, le maire aurait pu arguer du fait que dans une synagogue, il n'y a pas de culte.
Oui.
C'est un lieu d'enseignement. C'est...
Oui, je ne suis pas sûr qu'ils aient une connaissance non, de la théologie aussi. Pas.
Le maire de Toulouse.
Alors,
comment il s'appelle, c'est
Douste Blasi.
Douste Blasi. Voilà.
Mais ce n'est pas celui-là, c'est un maire d'arrondissement.
C'est un sous-maire.
Voilà, ça. Mais ils ont eu un contact avec M. Douste Blasi, mais je crois que c'est surtout avec le maire d'arrondissement qu'ils se sont. Et puis, bon,
Il faudrait devenir albanais pour plaire à Douste. Il aime bien les albanais.
Voilà. Sauf quand ils font des scènes de ménage un peu trop voyantes.
En public, oui. Là,
c'est ce qu'on trouvera dans ce numéro. Donc, je dirais ce côté très tonique, de très belles signatures, dont celle du patron de cette émission qu'on ne saurait trop recommander, qu'on trop louer, Monsieur Bekech, mais également Yves Daoudal, Martin Pelletier, Dominique Morin, le docteur Dor, Monsieur Mancheron, Benoît Mancheron, Georges-Paul Wagner et d'autres. Donc, C'est une revue qui est complètement moderne, puisque c'est une revue qui coûte 7,5 euros, n'est-ce pas, et qu'on peut commander à Clovis, boîte postale 88-91-152 Étampes. Clovis, boîte postale 88-91-152 Étampes. On peut téléphoner. C'est le 01-69-78-30-23. 01-69-78-30-23. Et on peut également l'acheter directement à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont dans le 5e arrondissement. J'en profite. Sur la troisième et quatrième de couverture, comme on dit, ben, il y a des publicités pour les derniers livres de Clovis, alors j'en profite pour les rappeler.
Oui, j'allais vous le proposer.
Voilà. Donc, il y a évidemment le superbe livre, j'espère que M. de Beketch invitera M. Villard pour parler de son livre « Croix en Laponie ».
Mais qui est le prolongement,
voilà, le prolongement du premier « Le Corbeau de la Loue ». Il y a le nouveau titre, j'espère que vous l'avez lu, « Amstramgram », qui est un livre.
Pas encore, là.
Alors là, il faut le lire rapidement, parce que vous risquez de dépasser la date de péremption, puisque c'est un livre pour les 6 ans, donc vous risquez d'atteindre cet âge rapidement.
Mais j'ai pas encore fini les 22.
Voilà, les 22 petits anges. Donc Amstramgram de Jean-Luc Chéry, qui est le même auteur que celui de Petit Ange, mais c'est pour les 6 ans. Nos amis Les Fontaines. Donc nous avons Rémi Fontaine qui a fait la très belle histoire du maréchal de Boussicault, un cadet du Guesclin. Du Guesclin, un petit peu après du Guesclin, en pleine guerre de 100 ans, mais c'est une histoire extraordinaire. Il a vécu une vie extraordinaire, faisant les choses en Orient, gouverneur de Gênes en Russie, enfin allant dans toute l'Europe entière. Et puis à quatre mains plus exactement, Louis et Rémi Fontaine ont fait un petit roman scout qui s'appelle Le Pharaon a disparu, plein de rebondissements et très amusant. Et notre ami Daniel Raffard de Brienne, qui a après avoir fait Odile d'Alsace, nous a fait un Antoine de Padoue. N'est-ce pas, cet homme qui est quand même le descendant d'un Français, c'est un petit-fils d'un Français, d'un croisé français.
Antoine de Padoue,
mais il
est né à Lisbonne.
Voilà, mais son grand-père était le gouverneur de Lisbonne, mais c'est un croisé français qui s'appelle de Bouillon, Fernand de Bouillon. Voilà.
Ah, je ne savais pas ça.
Voilà, mais justement,
Le savait sûrement parce que c'est une Antoine Padoviste fanatique.
Voilà, lisez ça et vous saurez tout sur Antoine de Padoue, donc par Raffard de Brienne.
Donc, vous le rendez, le journal, ou pas, vous allez partir avec.
Voilà. Alors, je rappelle, donc on peut commander tout ça à Clovis, boîte postale 88-91-152 Étampes. Clovis, boîte postale 88-91-152 Étampes. 01-69-78-30-23. Ou à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, dans le 5e arrondissement, et à Duquesne, et dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre.
Merci, monsieur l'abbé. Mais je suis bien content, j'ai appris quelque chose ce soir. Et je sais que Saint-Antoine était français.
Voilà,
donc ça m'étonne pas, c'est pour ça qu'il est bon.
Voilà.
Force. Alors, le nom de l'église, une auditrice demande le nom de l'église qui a été récupérée à Bruxelles. Elle a été vendue d'ailleurs par c'est des Arméniens qui.
Ce sont des Syriaques. L'évêque donc a récupéré cette église. Donc, nous ne sommes pas en France, donc les églises n'ont pas été spoliées, elles sont la propriété de l'église. Cette église appartenait aux rédemptoristes, qui n'ayant plus de vocation l'ont cédé à l'évêché, et l'évêché l'a cédé à une association syriaque, non catholique, je précise. Cette association s'en est servie pendant un certain temps, et puis elle est trop grande pour eux, donc ils ont préféré la vendre pour en acheter une plus petite qui convenait mieux et nous l'avons rachetée. Et effectivement, donc, c'est une très belle église, une magnifique église des années 1850, qui se trouve, encore une fois, en plein cœur du grand quartier européen.
Et alors elle s'appelle ?
Alors elle s'appelle Saint-Joseph, me semble-t-il.
Saint-Joseph,
je crois bien que c'est Saint-Joseph de Bruxelles. Et donc on publie des photos, mais nous n'avons pas fait un grand article dessus parce que pour le numéro de mai de Fidélitaire, nous ferons un grand dossier qui s'appellera Le Temps des Églises, où nous ferons connaître toutes les églises qui sont en France, et des églises de la tradition, et nous parlerons évidemment de cette magnifique, une des plus belles églises de la tradition dans le monde, l'église Saint-Joseph de Bruxelles.
Qu'est-ce que je voulais dire quand vous m'avez montré cette bêtise? J'avais une question intéressante à poser et puis elle m'a montré une bêtise qui m'a... Bon, ça fait rien. On se reverra de toute façon, je pense. Merci, monsieur l'abbé. À bientôt. Et je me tourne à présent vers le docteur X. Qu'est-ce qu'on dit? Parce que vous n'êtes pas accusé par le Conseil de l'Ordre de faire de la publicité, mais c'est pas le cas. Je vous interroge pas du tout sur ce plan, sur pour des questions, je dirais, médicales, mais sur des questions d'ordre, de l'ordre de l'actualité. Parce qu'on nous parle du malaise de la médecine, du malaise des médecins, de l'insatisfaction des médecins, oui, de leurs exigences, oui, etc., etc. Et il se trouve que, docteur François Planté, vous êtes médecin.
Ben oui.
Donc vous pouvez en parler. Vous pouvez peut-être nous dire ce que vous pensez de cette situation, de ces grèves de médecins.
Je pense que c'est un processus inflammatoire qui a commencé il y a longtemps. Moi, je le fixerais à la réforme Debré. Il y a toujours quand même un opérateur maléfique qui est derrière toutes ces choses-là. Là, la réforme Debré a été une remarquable destruction de la médecine française sous l'apparence d'une modernisation échevelée avec les CHU, etc. Et à partir de là, c'est là que la médecine a commencé à perdre son statut de métier sacré. Il faut bien dire que c'est un métier sacré, quoi. Il était comme ça dans l'Antiquité. Il est attesté par, finalement, parmi les métiers de Dieu, il y a le métier de médecin, outre potier, tisserand, etc. Et un des archanges dont on connaît le nom, c'est quand même Raphaël, c'est-à-dire Rophaël, c'est la médecine, ou Refoua, qui est la santé en hébreu. Donc c'est un métier qui a toujours été métaphysique, quoi, en quelque sorte. Et c'est, comme disait Hippocrate, il est au carrefour de l'art et de la science, c'est-à-dire c'est un métier qui est à la fois scientifique et en même temps extrêmement intuitif, comme l'est l'art de la guerre, en quelque sorte, ou du renseignement. La médecine d'avant qui entraîner les quolibets de ceux qui ont modifié les CHU, c'est-à-dire les médecins qui donnaient des fortifiants, etc., qui n'avaient pas de scanner. Cette médecine de médecins de famille était donc misérable et il fallait amener une médecine réellement scientifique, c'est-à-dire copier en plus mal ce que font les Américains. C'est-à-dire ce qui s'est passé, moi, quand j'ai commencé, j'ai eu la chance de me ramasser toutes les réformes, depuis le bac, en passant par l'internat, toutes. Je les ai toutes eues. Bon. Il fallait donc faire comme les Américains. Ils ont pris la partie... les Américains, effectivement, avaient une médecine scientifique, mais... la partie clinique était absolument remarquable. C'est-à-dire, moi, quand j'ai été travaillé dans les hôpitaux américains, c'est là où j'ai appris à faire des diagnostics avec un stéthoscope, deux radios et un machin, sans avoir besoin de monter des cathéters intracardiaques, etc. Ils avaient, eux, dans l'optique de Carrel, notamment, à la fois l'intuition du clinicien qui fait tout avec ses mains, et en même temps, les bases théoriques qui sont bien utiles. Seulement, il faut savoir qu'à l'époque, en médecine, ceux qui étaient bons passaient l'internat, et quand on passait l'internat, on faisait ni de l'histologie, ni de la physiologie, ni de la biochimie. On faisait de la cardiologie ou de la chirurgie, et comme m'avait dit un professeur à l'époque, quand j'ai commencé à agir, il m'a dit, tu comprends, fils, l'histologie, c'est les femmes qui font ça. On met les femmes, elles sont tranquilles, c'est très bien. Bon. Ce qui fait que le niveau était misérable. Alors, on n'a pratiquement pas eu, à part Roger Guillemin, mais qui l'a eu aux États-Unis, on n'a pas eu de prix Nobel de physiologie. Et à partir de là, on a commencé à voir se dégrader la fonction du médecin de famille, qui était quand même... Déjà, il y a une chose, c'est les médecins sont défroqués, ils ont enlevé leur blouse. Ce qui est quand même... Le vêtement, c'est, quelle que soit la position sociale, c'est quelque chose qui est un symbole fort et qui protège aussi, comme la soutane. Vous ne faites pas avec une soutane ce que vous feriez si vous n'aviez pas de soutane. Et la blouse, en même temps, la blouse, ça, c'est propre. Parce que on ne peut pas, dans les hôpitaux, on garde la blouse parce que c'est propre. À partir de là, il y a eu... le sarcasme, parce que les facultés, les professeurs de faculté ont perdu le contact avec la consultation générale. C'est-à-dire que avant, quand on était médecin des hôpitaux, on pouvait aussi avoir une consultation en ville. Donc on était à la fois des revenus fort honorables et en même temps, on savait ce qu'il fallait faire avec des vrais patients, pas avec quelqu'un, vous comprenez, qui n'a aucun lien avec le médecin. Vous allez à la Riboisière voir un médecin X ou Y, il vous garde un quart d'heure, si vous n'êtes pas content, ben il vous dit allez voir ailleurs, ce que vous ne faites pas dans un cabinet. Donc il y a eu cette ségrégation, et à partir de là, moi je l'ai bien vécu, parce que c'est le moment où j'étais externe ou interne. Le grand sport dans les hôpitaux, c'est se moquer des médecins de famille. jusqu'au moment avec les traitements qui n'étaient pas scientifiques, etc. Et progressivement, avec en plus les modifications liées à l'administration, les médecins sont devenus des espèces d'officiers de santé, disposant d'un temps infime pour soigner les malades, hein, alors que on sait bien, notamment les grands cliniciens anglais ont montré que dans les grandes cliniques universitaires anglaises comme à Oxford, à Cambridge ou ailleurs, ou à Edimbourg, le pourcentage des cas qui sont envoyés par les médecins de ville, qu'ils n'ont pas pu élucider et qui sont résolus par le staff universitaire, le pourcentage des cas résolus, il est dans à peu près 90% uniquement par l'interrogatoire. Hein. Disons 85 à 90%.
C'est-à-dire sans aucun examen,
aucun.
Juste c'est-à-dire une conversation avec le patient.
Si on ajoute les ancillary examination, comme ils disent, les trucs minimes, c'est-à-dire la prise de tension artérielle, l'énumération température, on augmente, on arrive à 95%. Et la totalité de tous les autres examens, depuis les angiographies numériques en passant par la laparotomie exploratrice, n'augmente la validité du diagnostic que de 3-4%, tout au plus.
Or, attendez, ça veut dire que je voudrais revenir là-dessus, parce que ça me paraît quand même énorme ce que vous nous dites.
Oui.
Pendant des années, on nous a dit qu'il fallait équiper la France de scanners, d'appareils de résonance magnétique, de machins, de trucs, etc. Et vous nous dites... De piste en bois, oui. Et vous nous dites, 95% des diagnostics sont le fait de médecins aux mains nues.
Oui, exactement.
Hein, qui disent, voilà, monsieur, vous toussez, vous vous réveillez le matin, vous vous réveillez la nuit.
À quelle heure
combien
ça
de fois
produit,
urinez-vous, etc. Voilà. Bon. Que ensuite, les 2 ou 3% en plus, c'est...
les petits examens, hein, c'est-à-dire
l'attention,
auscultation, tension,
voilà.
Les réflexes, peut-être les examens de sang du style formule numération, cholestérol, magnésium. Voilà.
Et le reste, c'est-à-dire une
énorme masse.
C'est l'énorme masse, et alors c'est ce qui représente quand même un investissement
colossal.
Une dépense colossale.
C'est-à-dire que tout l'investissement est fait sur la partie qui est la plus faible. Autrement dit, à partir de ce moment-là, les médecins, quand vous avez 10 minutes pour soigner un patient, c'est totalement impossible. En 10 minutes, vous pouvez à peine interroger quelqu'un sur ses habitudes alimentaires, par exemple. Pour le sommeil, il faut 20 minutes minimum pour interroger quelqu'un sur comment il dort, comment il se réveille, etc. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il fait, le médecin? Il prescrit des examens pour gagner du temps et il donne n'importe quoi. Il faut trouver une maladie administrativement correcte. Vous avez droit à avoir une maladie, même si elle n'existe pas ou si elle n'est pas définie. C'est comme de la philatélie. Il faut que vous soyez dans le cadre du timbre, du Siam à 2 roupies, machin, etc. Voilà. Et puis après, vous avez le dernier médicament présenté par l'industrie pharmaceutique. C'est comme ça que ça marche. Avant, c'était pas comme ça. Quand vous avez dû le connaître comme moi, quand j'étais petit en Algérie, les médecins de famille... C'était des personnages étonnants, quoi, qui savaient tout faire. Je veux dire, je peux comparer. J'ai quand même été à la Mayo Clinic, j'ai connu des prix Nobel, j'ai vu ce qu'il y avait de mieux au monde comme chirurgien. C'était des gens qui étaient des maîtres. C'était des maîtres. Ils étaient. On leur avait peut-être pas appris la biochimie bidon qu'on nous apprenait, parce que on nous apprenait de la biochimie pour devenir des savants. Alors, le professeur de biochimie nous disait c'est de la biochimie de salon, bien entendu. C'est du pipeau, etc. Mais le lendemain de l'examen, plus personne ne savait la différence qu'il y avait entre l'amidon et le yaourt Danone. C'était fini. Les types jetaient ça. Et vous pourriez le vérifier même chez les professeurs de faculté.
Mais, docteur, si vous me permettez de poser une question, si j'ose dire, en jouant les ravis de la crèche. Cette modernisation, donc tout cet appareillage qu'on a fait venir et qui apparemment, d'après ce que vous dites, n'était pas foncièrement indispensable. Est-ce que par le plus grand des hasards et sans vouloir jouer les paranoïaques, est-ce que par hasard il n'y aurait pas des gens à qui ça aurait profité cette affaire-là?
Bien sûr, enfin, de toute façon c'est évident, c'est pas que ça sert pas, ça sert dans son ordre en quelque sorte. On a bien vu par exemple dans le renseignement militaire, les satellites américains n'ont pas photographié Tchernobyl.
ils l'ont pas vu. C'est un type probablement qui marchait à pied dans la campagne, qui a envoyé un message par colombe à quelqu'un, qui l'a envoyé par poste à galène et ainsi de suite.
C'est vrai.
Le talon. Hein. Ouais. Donc en réalité, tout cet énorme matériel, c'est en fait une espèce de camouflage, un refus de responsabilité, parce qu'à partir de là, la médecine devient extrêmement frustrante.
Oui, parce que, alors c'est à ça que je voulais en venir maintenant, parce que notre conversation part du malaise actuel de la médecine. Et quand je vous interroge sur le malaise économique de la médecine, vous me répondez en m'expliquant au fond pourquoi il y a un malaise psychologique,
oui,
ou moral, ou spirituel de
bien
la médecine.
Sûr, bien sûr.
Alors, et vous dites, vous terminez à l'instant en disant ça crée une frustration. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est la réaction, l'espèce d'accablement des médecins aujourd'hui, il est lié à une situation financière qui est scandaleuse.
Elle est scandaleuse, c'est clair.
Mais aussi à une situation statutaire, mais pas au sens fonctionnaire du terme.
Au sens de la symbolique
sociale,
du métier.
Voilà, la symbolique du métier.
Ontologique.
Que les gens sentent, que les médecins sentent leur échapper. Et
plus ou moins consciemment, suivant le degré de clairvoyance, parce que beaucoup se sont fait prendre au piège, finalement, de la modernité, il est évident qu'il y a une frustration dans les traitements et les résultats qui est terrifiante. Terrifiante. Moi, j'ai entendu beaucoup de... J'ai lu un sondage, je ne sais pas dans quelle publication corporatiste, là, où on disait qu'en Île-de-France, 57 à 60% des médecins étaient prêts à faire n'importe quoi d'autre s'ils le pouvaient, hein, du jour au lendemain. Hein. Parce que pourquoi les médecines dites parallèles se sont développées ? Parce que 85% des maladies sont insoignables dans la stratégie actuelle.
Je vais vous poser une question parfaitement idiote, mais il paraît que c'est les réponses qui sont idiotes, c'est jamais une question, alors je ne dis pas. Vous faites dire 95% des maladies. Qu'est-ce que c'est qu'une maladie ? Est-ce qu'on sait ce que c'est qu'une maladie en réalité ?
Non.
Est-ce que c'est... Parce que dans la célèbre pièce
Le Knock,
il dit la santé est un état précaire.
C'est tout à fait vrai.
Est-ce qu'on a, dans les études... Je modifie ma question, parce que c'est dans l'ordre des choses, me semble-t-il, quand on fait des études de médecine. Est-ce qu'il y a un moment dans les études de médecine où on dit à un étudiant en médecine, voilà ce que c'est qu'un homme en bonne santé ? Voilà qu'est-ce que c'est que la santé ? La santé,
jamais.
C'est l'absence de maladie.
Jamais. Alors, effectivement, il y avait une vague matière dans le temps qui aurait pu être une matière de synthèse qui s'appelait la pathologie générale, qui peut-être dans 1890 par là se tenait un petit peu. Moi, ça n'existe plus maintenant, j'ai été un des derniers à bénéficier de cet enseignement. On y mettait n'importe quoi, le cancer chez les poulets, les maladies dans les ruches, enfin des trucs, absolument n'importe quoi. Par contre, effectivement, personne ne nous dit jamais ce qu'est être en bonne santé, ce qui postule qu'on ne nous dit pas non plus ce qu'est le fait d'être malade. Hein. Et je relisais, là, puisqu'on en avait parlé ces derniers temps, je relisais toute une série de bouquins parés depuis 30 ans, à propos notamment, le problème s'est posé notamment à propos des maladies mentales, parce que c'est assez difficile à définir, moi maintenant, mais c'est assez difficile.
Ça, c'est une spécialité, enfin, c'est une
de vos spécialités. Tout en sachant que la psychiatrie, c'est de la médecine, et que dans la médecine, il n'y a qu'une spécialité, c'est la médecine. Tout le reste, comme disait un professeur de Harvard, il disait, sachez que les spécialités, c'est fait pour gagner plus d'argent, se fatiguer un peu moins en ville. Hein. Et à la Mayo Clinic, aucun des services de médecine ne porte le nom de spécialité. C'est tous services de médecine interne et cardiologie, par exemple. Hein.
Revenons à la question. J'ai tellement.
C'est une telle richesse.
je vous posais la question de la
définition de la maladie, la
maladie et de la santé. Alors, vous répondiez, dans le temps, on enseignait la pathologie générale.
Mais par contre, maintenant, alors, savoir ce qu'est la santé, ça permettrait de savoir ce qu'est la maladie. Or, il est très difficile de définir ce qu'est une maladie. J'ai relu, comme je vous le disais, un bouquin assez récent d'un professeur d'une grande université qui se posait la question de se dire comment peut-on définir la maladie. Alors, je ne vais pas insister parce que c'est assez long. Il finissait par conclure, la seule définition valable, c'est « est malade celui qui va chez le médecin ». C'était le « rule of thumb », la règle expérimentale qu'il avait retenue, parce qu'autrement, c'est d'ailleurs cette expérience de la différence entre la maladie et l'absence de la maladie, on la vit constamment dans les hôpitaux. Hein, par exemple, vous avez une personne qui a des symptômes pas très nets, qui est fatiguée, qui se tord les pieds, qui a des verrues plantaires, qui dort pas très bien, etc. Et puis en même temps, qui a mal à la tête. Alors ça fait beaucoup de symptômes, il y en a trop. Hein, parce que je vous dirais peut-être tout à l'heure qu'il y a, suivant les pays, il y a le nombre de symptômes autorisés par malade. Au-delà, vous êtes ceramic crackpot, comme des Américains, c'est-à-dire fêlé du bocal. Alors,
on reviendra là-dessus parce que voilà. C'est super.
Alors on vient, l'interlocuteur médical... Eh ben, il dit, on va faire des examens. En général, c'est comme ça. Hein. Il dit, le docteur, j'en peux plus, je suis fatigué, je dors pas bien. Quand on me parle au bout d'une heure, je commence à avoir des bourdonnements d'oreilles, etc. Bon, on fait des examens. Alors, vous ressortez, vous avez l'équivalent des œufs complètes de Saint-Bonaventure en examen. Quoi, hein. Vous en avez de quoi épuiser 60 infirmières. Quoi, hein. Et puis, alors, quand on n'a pas les résultats, il y a deux cas. Quoi, hein. Si vous avez la chance... qu'il y ait un résultat positif. Alors là, vous recevez, vous êtes adoubé, quoi. Vous êtes le malade politiquement correct et médicament correct. Ah, monsieur, machin, vous avez une belle tumeur. Alors, j'ai un peu fait encore. Non. Ou vous l'avez pas. Alors, à ce moment-là, on dit, ça doit être une dépression, puisque la psychiatrie est la voie de décharge des poubelles de la médecine, si vous voulez. Quand on sait pas.
C'est psychosomatique.
C'est psychosomatique, c'est way out, hein. Et puis alors il y a les cas intermédiaires où celui qui s'est fait traiter de simulateur, etc., tout d'un coup il y a un examen qui a mis plus de temps et qui arrive.
Et du coup, et il redevient coup, un malade
tout change. Sérieux, oui. Vous avez l'hormone X qui est anormale, bienvenue au club, quoi.
C'est vraiment ça. Ça me fait ce que vous venez de dire là, ça me fait exactement penser à un Achille Talon. Je sais pas si vous.
Oui.
C'est le monstre de l'étentacule avec le docteur Basile Defou qui à un moment vire de son bureau le garde champêtre en lui disant je refuse de vous soigner, vous êtes un malade, monsieur.
c'est admirable, quoi. Ouais. Admirable. Alors le résultat. Pourquoi c'est comme ça? Parce que Pour savoir si quelqu'un est malade, il faut avoir une idée de ce qu'est la bonne santé, de ce qu'est la dérive par rapport à la bonne santé qui entraîne une maladie, et être capable d'analyser les désordres du fonctionnement. Enfin, un garagiste, il regarde pas la voiture en disant elle a la panne de mouche à bœuf. C'est pas comme ça qu'il fait. Hein. Il écoute les bruits, il regarde les machins, il touche un peu les causes des batteries, et ensuite il pose. Or nous, c'est pas du tout ça. Où que vous alliez, c'est une recherche, on cherche n'importe comment. C'est-à-dire, on fait des examens, ça peut prendre des sommets absolument invraisemblables. Alors, le drame, c'est que souvent, vous avez des gens qui souffrent énormément, moi, j'en ai vu des dizaines de fois, et qui vous disent, c'est dramatique, parce qu'on est là, on n'en peut plus, et les gens vous disent, monsieur, vos examens sont normaux, vous n'êtes pas malade. Alors, il faut en plus... se pencher sur qu'est-ce que la normalité sur laquelle se fondent ces gens. Parce que, supposons par exemple que on évalue la normalité du fer ou du cuivre ou d'un truc plus bizarre, du molybdène par exemple. Sur quoi on se base? Sur des groupes de sujets supposés sains chez qui on va mesurer le molybdène et qui vont donner une distribution statistique de Gauss, hein. Alors, or, justement, le groupe supposé sain, c'est un paralogisme, parce que c'est la question qu'on se pose au départ. Comment on sait qu'ils sont sains? Hein? Alors, on a, finalement, c'est essayer de se soulever soi-même par ses propres lacets de souliers, comme disait je sais pas qui. Hein? Bon. Finalement, on a une distribution statistique qui entraîne, qui est objective, mais c'est d'une objectivité qui, en fait, fait l'assentiment des scientifiques entre eux, mais qui a peu de rapport avec l'essence même de la réalité. Cette mesure, on ne sait pas ce qu'on mesure.
C'est-à-dire que, à partir du moment où on a commencé à systématiser la médecine, ou à la mécaniser, on pourrait dire, hein, on est sorti du caractère intuitif, donc du caractère sacré aussi.
C'est ça.
À partir du moment où on s'est livré à ça, on est arrivé à nomenclaturer. Il y a une nomenclature médicale, vous rentrez dans le truc ou vous rentrez pas, et on est arrivé à démocratiser la médecine, en ce sens que, parce que ce que vous nous dites, l'identification d'un trouble, c'est le fait qu'on est à la mauvaise place dans une courbe de Gauss. Voilà. La courbe de Gauss étant tracée à partir d'un certain nombre de constats considérés comme normaux.
Oui.
Donc c'est démocratiquement qu'on décide voilà. que la température, c'est 37 degrés.
Exactement.
Et si vous avez 38, vous êtes forcément...
Là où on a déjà parlé, là où ça touche des sommets, c'est les histoires de cholestérol.
Oui,
hein, dans la validité, dans la valeur était à 2,85 g quand j'ai passé le CFMG pour aller aux États-Unis, c'était normal. Et où progressivement, on a vu cette valeur baisser pour atteindre 2 grammes maintenant. Ce qui permet de soigner la totalité de l'Occident avec les brillants résultats que vous connaissez.
Les gens sont plus malades puisqu'ils sont morts.
Ils sont plus malades. Hein.
Donc, c'est une
guérison définitive. Et puis, on peut aussi se rendre compte que l'information concernant les décès collatéraux, elle dure pas très longtemps. Hein, parce que ce qui s'est produit en Allemagne récemment, ça a fini par disparaître sans laisser trace. Plus personne n'en parle. Hein, on continue à prescrire les mêmes médicaments. Mais c'est un des plus beaux cas de manipulation des résultats de base. Parce que vous pensez bien que s'il faut traiter tous les gens à 2 grammes, c'est tout l'Occident que vous traitez et que vous empoisonnez.
Ça fait un gros marché. Hein,
ça fait un énorme marché. Alors, ces systèmes statistiques, c'est facile parce que c'est facile dans un système où finalement le malade est trop en quelque sorte, hein, parce que l'important c'est d'arriver à ce que tout le monde s'entende, à donner un médicament et finalement si la personne ne guérit pas
c'est la mauvaise volonté.
Presque un peu de sa faute. Oui. Quoi.
Mais je voudrais pas vous créer de difficultés avec vos confrères, mais je vous pose une question à laquelle il est peut-être difficile de répondre. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a, quand on reçoit un patient, un temps minimum d'examen clinique? Vous nous disiez au début que 90% du diagnostic est fondé sur une conversation avec le malade. Bon. Alors, combien de temps doit durer en gros cette conversation?
Il ne semble pas qu'on puisse descendre en dessous d'une heure.
Parce que... Donc, ça suppose... Je voulais vous poser cette question parce que ça met le salaire, le revenu du médecin au double du revenu d'une technicienne de surface.
Exactement.
50 francs de l'heure,
c'est ça.
Multiplié par deux, 100 francs, bon, le médecin c'est 115.
C'est ça, exactement.
Alors, donc c'est une impossibilité économique pour le médecin de respecter cette nécessité. Et alors on en arrive à ce paradoxe extraordinaire, c'est que en forçant le médecin à réduire au minimum la durée de son examen, de sa conversation clinique avec le patient, on le force à réduire ça par des moyens économiques,
oui,
pour faire l'économie d'une augmentation du prix de la consultation, ce qui fait que le médecin recourt à ce moment-là à des examens qui sont infiniment plus coûteux.
Exactement.
Et qui oblige, alors là, qui pèse beaucoup plus sur le coût de la santé en France.
Bien sûr, oui.
Pour un service rendu qui est nettement inférieur.
Donc
on peut pas ne pas imaginer qu'il y a une volonté mauvaise derrière ça.
Forcément. Enfin, je ne sais pas. Les ressorts les plus cachés sont fort difficiles à dévoiler, mais. Effectivement, vu de l'extérieur, ça se passe comme ça. Parce qu'une authentique réforme de la médecine, ça serait de faire d'abord de former des médecins dans des écoles de médecine, pas des facultés, hein, comme aux États-Unis. Parce que finalement, en France, l'équivalent de l'école de médecine...
Quelle est la différence en deux mots?
Et une école de médecine américaine, c'est comme l'école vétérinaire, c'est-à-dire que... ou comme une école professionnelle. On est la seule profession qui n'est pas d'école professionnelle. La faculté, c'est pas fait pour former des professionnels. Hein, c'est pour les arts libéraux.
Mais... Quand l'internat, c'est une forme d'école professionnelle.
Oui, mais c'est les hôpitaux qui l'avaient créé. Mmh. Hein, c'est pour ça qu'il va évidemment, comme avait dit un chirurgien des hôpitaux de l'époque, le système le plus mauvais qui était la faculté a exigé d'intégrer l'internat. Alors que l'internat, c'était là une école professionnelle sur le tas. Aux États-Unis, vous rentrez, il y a un concours très difficile, hein, d'autant plus que l'institution est prestigieuse. Hein, vous avez, je sais pas moi, peut-être 200 étudiants qui sont pris à Johns Hopkins ou à Yale. Et ensuite... Ils sont avec un instructeur comme on le sera à la Légion. Ils sont quatre avec un instructeur qui les mène. C'est des famulos avec des famulis avec leur instructeur. Donc, ils sont nourris de savoir en permanence au lit du malade, etc. Nous, si on n'a pas l'internat, on peut ne jamais mettre les pieds à la faculté. C'est mon cas. Moi, j'ai jamais mis les pieds à la faculté après 2 ans. Et les examens d'hygiène, je les apprenais dans le bus. Hein. Tout le reste, c'était les conférences d'internat où on apprenait vraiment la médecine. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'on ait... Et puis les professeurs, étant des professeurs de faculté et pas d'un système d'école, Ils étaient interchangeables, par exemple, en troisième année, les cours de chirurgie de la main étaient, des cours de chirurgie digestive étaient faits par un spécialiste de la main, et les cours de chirurgie de la main par un neurochirurgien, par exemple. Alors, le Panaris, jamais personne n'a rien compris. Pourtant, c'est pas dur, parce que le gars, ça faisait 30 ans qu'il n'avait plus vu de Panaris. Hein. C'était vraiment n'importe quoi. En réalité, s'il fallait... La seule façon de restaurer, parce qu'on perd un argent fou avec des dizaines de milliers de radios sans intérêt, etc. En fait, ce qu'il faudrait, c'est... créer d'authentiques écoles de médecine, former des médecins qui connaissent vraiment la théorie et la pratique, et passer la consultation à une heure, à 1000 balles, hein, au prix d'un scanner. À ce moment-là, on verrait diminuer tous ces milliers d'examens qui sont faits pour des gens qui ont des douleurs fonctionnelles du cou, à qui on va chercher des vagues pincements, etc. Enfin, c'est des pompes à finances absolument incroyables. Mais c'est une réforme copernicienne, en quelque sorte. Hein.
Ouais. Bon. Oui, c'est-à-dire, c'est une révolution qu'il faut faire. Alors, une révolution...
Retour aux sources,
oui, au sens c'est ça, du mot révolution. Vrai du mot révolution, mais en même temps une révolution qui mettrait à bas tout le système de confiscation financière.
Oui, parce que évidemment, parce que finalement, dans ce système-là, vous avez donc, vous devez vous baser sur une liste de maladies plus ou moins médicalement correctes. Ces maladies étant sanctionnées par le choix d'un médicament issu d'un dictionnaire médical bien connu, hein, d'un recueil de médicaments, ou issu du réseau de visiteurs médicaux qui va vous expliquer que leur dernière molécule est la meilleure, et ça se voit jusqu'au plus haut niveau universitaire. Alors que, avant, les médecins, faisaient des préparations, par exemple, chaque individu est unique. Vous ne pouvez pas, il est impossible de se fonder sur un traitement unique. Par exemple, dans la dépression, le nom de dépression, ça évoque tellement d'entités différentes que vous ne pouvez pas imaginer qu'un médicament antidépresseur va guérir toutes les variantes des troubles de l'humeur. C'est comme si on vous disait, vous avez de la fièvre, je vous donne un antifièvre, quoi. Hein? C'est ou irréel. Vous êtes malade, je vous donne un anti-maladie. C'est impossible. Or, toute la diversité qu'il y avait dans les traitements d'avant. Quand j'étais petit, je me souviens, il y avait d'innombrables, par exemple, médicaments pour la sphère digestive, qui est chez l'homme capital, qui doit être 95% des maladies, c'est-à-dire du citrate de bétaïne, des extraits de romarin, etc. Ces choses-là ont tellement fondu que quand vous avez mal au foie, si vous faites l'expérience, vous allez à un hôpital quelconque, universitaire, vous dites j'ai mal au foie, j'ai des dyspepsies, etc. Il n'y a pratiquement plus de médicaments. Il n'y a plus rien. Alors, tout ça pourquoi? Parce que, à l'époque, on a dit, c'est des placebos, c'est des médicaments de confort, donc je pense notre devoir, ça devrait donner des médicaments qui rendent inconfortables. Hein, par exemple, mettre des cailloux dans les souliers du malade, comme ça il est moins confortable.
Enfin, ça, c'est un peu, tous les médecins qui ont travaillé en Afrique disent que quand le médicament fait, la piqûre fait pas mal, les Africains disaient que ça marchait pas.
C'est vrai.
Faut que ça fasse mal.
C'est exact. Mais, il y a une composante de ce genre. Mais dans les médicaments dont on disposait dans le temps, qui agissaient sur la vitalité générale de l'organisme, qui promouvaient les forces de guérison, parce que, on parlait tout à l'heure de la maladie, la question c'est plutôt qu'est-ce que la santé, comment maintenir les individus en bonne santé. On a vu cette campagne invraisemblable, les fortifiants c'est des placebos. Alors c'est là où ça devient extraordinaire. Prenons par exemple le cas de l'acide glutamique, bien connu des écoliers anciens. Je ne sais pas s'il y en avait sur l'Anatole France, mais à la limite, c'était ce qu'on donnait quand j'étais petit dans les années 50. C'était un fortifiant.
Oui, c'est ça.
Le glucose amphétaminé, machin, etc. Bon. Et puis, les autorités de Brésienne ont dit c'est de la rigolade, c'est mensonger, etc. Ça, c'était en 50. Et là, je viens de lire, c'est un résumé de travaux récemment, sur l'acide glutamique. Dans le dernier numéro de l'American Journal of Psychiatry, sous des signatures prestigieuses, ils arrivent à la conclusion que l'acide glutamique, on a découvert que c'est un neurotransmetteur absolument fondamental dans la concentration, l'attention, l'échange des signaux. C'est ce que le dernier prix Nobel, Paul Greengard du Rockefeller Foundation, appelle le hardware du cerveau. C'est d'une importance tellement gigantesque qu'apparemment c'est ce qui est la clé avec l'acide aspartique des désordres schizophréniques. Et la fin de l'article, c'est à partir de l'acide glutamique et de l'acide aspartique, qui se vendait aussi comme fortifiant, il va être possible de développer des médicaments très puissants, etc. Donc on a perdu à peu près 50 ans. Hein, et on a injurié ces pauvres praticiens qui filaient ces acides aminés, alors que avec 50 ans de travaux et des milliers de publications, on arrive à ce qu'on savait au départ, c'est que c'est des éléments vitaux qui sont aussi importants que le sel et l'eau, hein, et qui, enfin, c'est comme si on faisait une expérimentation double aveugle pour savoir si l'eau désaltère. Finalement, ça n'a jamais été publié, ça. Bah,
c'est-à-dire, hein, que oui, on pourrait dire, il y a, hein, un groupe qui va pas boire, ouais, voilà, un groupe qui va 5 boire.
Jours, et on va regarder, voilà, ce que ça donne.
Ça.
Et cette, ceci, je parle d'acide glutamique et d'acide aspartique qui sont des neurotransmetteurs, on pourrait étendre cette chose-là à bien d'autres choses. Prenons par exemple le cas de la maladie d'Alzheimer, dont une des substrats biochimiques s'embête les anomalies de l'acétylcholine. Donc l'idée, si l'acétylcholine qui est fabriquée avec du vinaigre et de la choline qu'on trouve dans les légumes manque, l'idée ça serait de donner éventuellement de l'acétylcholine. Non, ça c'est trop simple. On donne un médicament complexe et cher, dont le dernier, un des premiers vient d'être retiré du marché parce qu'il aggrave la maladie, qui est supposé empêcher la destruction de l'acétylcholine de l'organisme malade. Alors la question c'est, vous empêchez la destruction de quoi? Comment vous savez qu'il y a de l'acétylcholine en quantité suffisante? Un jour j'ai demandé ça à un des patrons du labo, et il n'a pas répondu, ben, dit, on pense qu'il y en a. Hein. Alors par contre, lorsqu'on s'adresse à d'autres types de savants, comme en l'occurrence c'est Richard Wurtmann qui a eu le prix Nobel en 65, qui est au MIT à Boston, qui a travaillé sur la façon d'augmenter la choline dans la tête, et qui a dit par exemple que 2 œufs à la coque tous les jours, ça double le taux de choline, et que donc... Bon, et il a mis au point, alors ça c'est si vous voulez le traitement de base qu'on peut conseiller à tout le monde, parce que c'est bon, plus avec des mouillettes et tout, quoi.
Ah oui.
Hein, c'est exquis, quoi.
Contre la maladie d'Alzheimer, manger des œufs coqs.
Oui, voir une omelette bien baveuse pour que, bon. Et puis, ils ont mis au point, là-bas, un précurseur qui est extrait des œufs, hein, qui est phosphatidylcholine, qui quadruple le taux d'acétylcholine dans le sang. Donc c'est le médicament rêvé pour ça. Et bien, ce médicament est indisponible. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas brevetable et qu'il n'intéresse personne.
Ah voilà. Il n'est pas brevetable parce que c'est trop simple.
Parce que c'est une substance naturelle. Vous savez qu'il y a 4 critères de brevetabilité. Et si vous les obtenez, ce qui est un grand sport dans l'industrie, c'est comment, moi j'ai assisté à ça, qu'est-ce qu'on pourrait greffer sur cette molécule pour qu'elle devienne brevetable? Après qu'elle soit efficace ou non, ça c'est le problème du marketing, il le fourgue. Hein. Mais quand c'est un produit comme ça, il y en a d'autres, ce qu'on appelle les orphan drugs, hein, les drogues orphelines. Mais à ce moment-là, tout le monde s'en détourne, parce que si un laboratoire le met sur le marché, le lendemain, comme disait mon patron dans les pharmaceutiques, il y a un gars dans un garage à Courbevoie qui va en fabriquer 10 000 boîtes moins chères et qui va le vendre sur le terrain. Hein. Voilà quel est le drame de la médecine moderne.
Au fond, quand on vous entend, c'est curieux, je pense à ça depuis tout à l'heure, l'abbé Sellier est parti, mais on a l'impression que la médecine est un art sacré et que la désacralisation de la médecine a produit sur la médecine le même effet que la désacralisation,
oui,
de l'Église,
oui, c'est clair,
des prêtres et du rite a produit sur l'Église de France. C'est une mécanisation, oui, une fonctionnalisation.
Ça prouve que les métiers sont, presque tous d'ailleurs, sont des métiers sacrés, et que quand ils échappent à ce caractère, ils se vident de leur substance. Mmh. Hein,
ouais.
ça devient des coques vides, d'où ce malaise épouvantable, d'où les médecines parallèles qui valent pas mieux que les médecines non parallèles, hein, si on peut dire, où finalement, quand vous n'êtes pas soigné, vous êtes bien obligé d'aller voir un homéopathe, de la médecine énergétique, d'acheter des produits qui souvent coûtent 10 fois plus cher que... Hein, on en voit partout qui viennent du Luxembourg et tout, parce que c'est pas très, très admis en France, voire des guérisseurs et des radiesthésistes. Il faut un chiffre d'affaires probablement bien plus important que les médecins. Mais quand on vous répond, vous n'êtes pas malade, c'est dans la tête, allez voir un psychiatre, qu'est-ce que vous voulez que fassent les gens? Ah ben ils vont là où ils espèrent trouver du secours.
Et alors il y a une autre chose qui est assez bizarre et paradoxale, c'est justement, puisque vous parlez de psychiatrie, je vais pas parler psychiatrie mais de psychanalyse, ça n'a pas grand-chose à voir, mais enfin c'est intéressant de voir que on nous dit. Un des grands propos qui est répété à propos de la psychanalyse, c'est il faut que ça soit un acte volontaire et coûteux. Il faut que le patient, que l'analysé, paye son analyste, parce que par le fait de payer, il s'implique lui-même, et en quelque sorte, il participe à sa propre thérapie, et s'il ne paye pas, la psychanalyse gratuite, ça marche pas.
C'est très fort.
Mais la médecine gratuite, ça marche très bien.
Oui, c'est ça. Je trouve que ce truc est un système génial.
C'est curieux que ce soit M. Freud qui a
inventé ce truc-là. C'est un homme d'affaires de très grande qualité. Oui. Hein. Vous vous souvenez des histoires de René Cousinier, un homme d'affaires de cette qualité et tout. Bon, c'est un système absolument éblouissant. Quoi, hein. Bon, cela dit, si vous injectez une ampoule de morphine gratuite par voie intraveineuse, gratuit ou payant, vous vous rendez très vite compte de l'effet majeur que ça fait, comme le LSD, par exemple. Hein. Oui. Et pour donner une idée de ce que peut être la psychanalyse, je relisais, entre autres travaux, un bouquin assez ancien déjà d'un professeur, Gottschalk, d'une université, je crois que c'est du Nebraska, où il avait comparé les listes d'attente des malades en psychothérapie et ceux qui étaient déjà en psychothérapie. Donc, vous aviez les gars qui faisaient 4 mois de psychothérapie et pendant ce temps-là, d'autres attendaient 4 mois parce qu'il y avait des... Et les résultats de l'examen, c'était qu'au bout de 2 mois, les gens sur la liste d'attente étaient guéris dans 75% des cas, mais que par contre, ceux qui étaient en psychanalyse voyaient leurs symptômes s'aggraver dans un pourcentage hautement significatif. Ce qui est quand même glorieux.
C'est magnifique. Enfin,
voilà, voilà.
Il n'a pas eu trop d'ennuis quand il a publié cette
étude. Non, parce que c'était quelqu'un de célèbre, et puis ça a été ensuite confirmé sans cesse, si vous voulez. Maintenant, ça serait probablement une faute professionnelle que d'envoyer psychanalyser à surtout aux États-Unis. Mais ceci pour dire qu'on vit dans un mélange de rationnel irrationnel, en fait, parce que cette médecine rationnelle, il y a un irrationalisme, ça donne un aspect cohérent, c'est une validité entre nous, vous et moi, on peut bien mettre un système faux, mais que nous nous communiquerons d'une façon parfaitement claire, par exemple. Hein, par exemple, la physiologie des Martiens. Hein, je ne sais pas, mais on peut imaginer un truc de ce goût-là. La médecine, mais c'est un peu ça.
C'est d'une certaine manière... on parle beaucoup du Seigneur des Anneaux en ce moment, qui est un livre que j'aime beaucoup, j'ai lu 10 fois, et je suis allé voir le film qui est magnifique, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on crée un univers à l'intérieur duquel il y a une certaine logique du système, mais tout ça est complètement déconnecté de la réalité.
C'est une logique paralogique qui est un système qui fonctionne sur lui-même. Alors, nos collègues, nos confrères, ils le sentent bien, ça, on le voit. Moi, j'ai des camarades qui m'ont dit mais la médecine, il faudrait avoir une grosse fortune et faire la médecine pour son plaisir, pour pouvoir garder les gens à une heure.
Mais c'était un peu le cas jadis, d'ailleurs.
Oui.
Il y avait ces médecins qui étaient des médecins bienfaiteurs. Enfin,
oui, c'est ça. C'est ça. Hein. Et puis, un aspect essentiel qu'on avait évoqué ensemble, c'est... Il faudrait peut-être se poser la question de qu'est-ce que la santé ? Qu'est-ce qui maintient la bonne santé ? Hein, c'est quand même essentiel. Comment vous pouvez réparer des gens si vous savez pas comment fonctionne l'organisme habituellement et quelles sont les caractéristiques de la vie ? Hein, parce que depuis des années que je lis des heures par jour toutes sortes de revues hautement scientifiques, ça finit toujours, même le dernier article dont je viens de vous parler, sur des formules du genre, évidemment, much more work, il en faut encore, et toujours, et à jamais. C'est ce qui a amené, dans une échange de correspondance très récente, un professeur de Columbia, hein, qui travaillait sur les enfants hyperactifs, hein, qui est une maladie gravissime, etc. Il dit, un certain Kramer lui écrit, donc c'est le professeur Jensen, et en lui disant, vos trouvailles statistiques ne montrent pas de différence significative, machin, etc. Il répond, les statistiques ne sont qu'une fonction de la taille de l'échantillon, c'est-à-dire si vous avez 100 000 personnes, ça sera peut-être un peu plus juste, et de la puissance de l'analyse. Hein. Et il a dit, c'est plutôt ça, plutôt... que la preuve d'un canon immuable de la vérité, ce que ça n'est pas, mais on l'a transformé, c'est-à-dire que la statistique devient la parole divine, en quelque sorte, et c'est un péché, vous en aviez parlé déjà à une émission récente, c'est le péché d'utiliser les nombres détachés de leur référentiel divin, hein, ça c'est clair. Hein. Ouais. Et il ajoute, parce qu'il ajoute, si on doit attendre, alors je traduis pas très bien, bon... Ne pas attendre, dit-il, while waiting for Godot. Hein, ça y fait allusion à la pièce de...
Pendant qu'on attend Godot,
pendant qu'on attend Godot, c'est-à-dire l'étude parfaite. eh ben, ça serait mettre en grave danger la santé de ces enfants qui vont pas attendre 5 siècles pour savoir si la Ritaline est efficace ou non. Mmh. Hein. De même, dans le domaine des micronutriments, qui est très controversé, bon, il y a un professeur de Boston qui a dit l'emploi des oligo-éléments, des vitamines, des protéines échappe complètement au type d'études qui étudient les médicaments pharmaceutiques, qui déjà ces études-là sont hautement critiquables. Hein. Mais dans ce cas, c'est impossible parce que les phénomènes de la vie sont imprévisibles. Ils changent constamment. C'est pour ça que les mêmes chercheurs trouvent des résultats différents. Et j'ai trouvé dans les soirées Saint-Pétersbourg une phrase magnifique, un petit extrait de Joseph de Metz qui dit les éléments mécaniques de l'homme sont lourds, pesants, avec des cliquetis. Enfin, c'est la machine à marcher. Je ne sais pas si vous aviez vu ça dans ces vieux films américains.
Ouais. Oui, c'est voilà. Drôle comme tout.
Machine à marcher.
Qui cliquette, qui fume, qui finit généralement par se démentir. Voilà, trois pas.
En mille morceaux. Ouais. Et dit par contre, les phénomènes de la vie sont souples, invisibles, toujours changeants. Et il dit imaginez une horloge dont tous les rouages, les ressorts, les élastiques changeraient constamment, mais qui donnerait toujours l'heure exacte. Ça, c'est la vie.
Ouais.
Donc, c'est quelque chose qu'il faut saisir de manière intuitive et non mécanique.
Et on revient au caractère sacré.
Voilà. Et la vie, si on pouvait dire comment fonctionne l'être humain, il fonctionne avec de l'eau, de l'air, de la lumière, des aliments, de la bile et de l'acide chlorhydrique dans l'estomac. Telles sont les bases de la vie humaine. C'est avec ça qu'on vit. Hein. Eh bien, la meilleure preuve, c'est que les plus brillants succès de la médecine contemporaine, c'est qui sont la réanimation des opérés. Hein, parce que l'acte chirurgical lui-même, c'est pas en soi très difficile. On peut perfectionner l'instrument, mais ce qui a changé la chirurgie, c'est la réanimation des opérés. Alors, la réanimation, qu'est-ce que c'est sinon de la nutrition clinique? Vous nourrissez les gens en calculant le volume de liquide dont ils ont besoin par surface corporelle, la quantité des ions qu'il faut, du bicarbonate, du sodium, etc., des micro-aliments, des solutions de protéines, de l'air, hein, il y a des voies d'oxygène partout, voire de la lumière, hein, les lumières sont étudiées pour qu'elles soient plutôt vertes parce que c'est des bonnes longueurs d'onde. Donc ça on le dit jamais, mais on est là en plein dans le domaine d'une réanimation des énergies vitales par de l'eau et du sel.
Ouais.
Et c'est ce qu'il faudrait faire dans le reste de la médecine, parce que les forces de guérison de l'organisme sont seules capables, par exemple, de réparer les neurones à l'intérieur du cerveau. C'est pas en greffant des neurones de fœtus de rat qu'on va réussir, c'est grotesque. Hein. Bon, c'est en permettant, parce qu'on le sait que ça marche, hein, en permettant aux cellules de se réparer, en leur donnant, en leur apportant un maximum de fournitures, à ce moment-là, on peut espérer, et les évidences le prouvent. Mais une fois de plus, on retombe dans la même chose que je vous disais tout à l'heure, les intérêts financiers qui font que jamais personne, par exemple, aucun réseau de visiteurs médical va présenter l'usage du fer ou de la vitamine C. Hein.
Et donc on en arrive, alors j'aurais sur le plan anecdotique, peut-être terminer sur cet aspect de la question, vous évoquiez le rôle des statistiques et le rôle du nombre des symptômes, voilà.
Voilà.
Alors vous nous disiez que...
Alors, donc j'ai trouvé ça chez un auteur anglo-saxon parce qu'ils sont très complets, etc. Les Américains ont droit à un ou deux symptômes, au-delà...
C'est pas ça.
Rejected. Hein, c'est pas bon, c'est de l'hystérie, direction psychiatrie. Chez les Anglais, ils ont droit à 7 à 8 symptômes, et apparemment, chez nous, on atteint à peu près 10. Ce qui fait que l'auteur dit, dans les époques antécédentes, les gens étaient mieux soignés en France. Mmh. Il restait cette perception du malade, de la complexité des maladies pléiomorphiques, mais c'est en train de disparaître. C'est en train de disparaître au profit d'une médecine totalement numérisée dans laquelle on met dans le lit de Procus des listes de maladies autorisées et des listes de médicaments autorisés des gens qui finalement souffrent de bien d'autres choses et qui sortent désespérés, qui traînent tout le temps et d'où le caractère insoutenable, ça devient insoutenable la médecine. Hein? Vous pouvez plus supporter et c'est pour ça que nos collègues, bien sûr, qui font la grève des honoraires et pas des tarifs comme disent les débiles mentaux. Le médecin, il était honoré, il n'était pas payé, quoi. On lui filait pas un bifton. Cette grève, elle cache bien sûr un désespoir de se sentir ravalé, quoi. Parce que quand vous faites de la médecine comme ça, vous n'avez pas du tout l'impression que vous réveillez les forces vitales. Moi, j'ai connu des camarades, des chirurgiens cardiaques. J'en connais un, il a ouvert un restaurant parce qu'il pouvait plus, quoi. Hein. une pizza à Nice. Hein.
C'est vrai. Merci François Plantet, merci docteur Plantet. Je ne sais pas si on a le temps, il reste 3 minutes.
Très vite, quelques réflexions. De vacances avec une amie gastro-entérologue à l'hôpital Pompidou qui ne dit pas autre chose que le docteur Plantet sur la qualité du diagnostic par le simple dialogue avec le patient. À propos de la réforme de Bray dans les années 59-60, je rappelle les fulgurants articles dans la presse médicale de l'illustre professeur Mollaret. Oui. Qui annonçait le déclin de la médecine française.
C'est très vrai.
À propos de la maladie, les étudiants en médecine actuelle, au début de leurs études, n'entendent que très rarement parler, et ne lisent pas, du livre du docteur, du professeur Georges Canguilhem, qui dans sa tête et des écrits a abordé le problème du normal et du pathologique.
Très vrai, c'était un médecin philosophe.
La description de l'examen que vous préconisez est exactement celle que font les homéopathes.
Oui, dans la forme, mais le fond n'est pas tout à fait le même. Mais c'est vrai.
Le taux de glycémie à partir duquel on soigne pour un diabète n'est-il pas trop bas?
Ça nécessiterait un plus long développement, mais ce serait vraisemblable.
C'est un peu la même question pour le cholestérol, mais peut-être qu'on pourra en faire une émission un jour là-dessus.
C'est la sécurité sociale qui est en train de détruire la médecine.
Ça, c'est clair.
Rien de nouveau sous le soleil. Eugène Labiche, dans La Poudre aux Yeux, fait lire ce dialogue entre une femme de médecin et son mari. Elle, pourquoi as-tu dit à ton dernier malade que tu ne savais pas ce qu'il avait? Lui, quand on ne sait pas. Elle, quand on ne sait pas, on dit c'est nerveux.
C'est superbe. Pardon.
Et un auditeur qui dit « Cependant, l'espérance de vie en France est supérieure à celle des États-Unis. »
Enfin, ça, c'est encore... C'est des choses...
On en a déjà parlé, l'espérance de vie, on pourra y revenir.
Dernier, quand pourra-t-on lire un grand traité de biochimie sacré signé du docteur Plantet?
Dans quelques siècles.
Ah, ça serait bien. Merci François Plantet, merci Victoria. Nous nous revoyons la semaine prochaine pour une émission de 3 heures. On consacrera la première partie de cette émission à une évocation. D'ailleurs, François Plantet pourrait peut-être venir s'il a le temps de l'Algérie sous les bombes. Pas par une espèce de manie évocatrice, mais parce que ça me paraît important de montrer aujourd'hui où il y a une espèce d'hystérie autour des attentats. Comment des Français se sont comportés alors qu'ils vivaient dans cette ambiance. Donc j'ai demandé à Pierre Descaves de réunir quelques Algérois, quelques Oranais qui ont vécu cette époque-là et qui viendront témoigner. Ah, François, oui, si vous voulez venir, vous êtes bien entendu invité.
Un souvenir extrêmement précis.
Pour faire taire, il y a des petites rumeurs qui courent sur vos pronostics pour les prochaines élections. Alors, normalement, vous invitez, Bruno Maigret sera invité par vous le 27 février prochain.
Oui, en deux mots, je me suis fait avoir, j'ai répondu à une interview en surveillant tout à fait le texte de l'interview, j'ai pas pensé à vérifier le titre. Le résultat, c'est que le titre n'est pas tout à fait le reflet des propos que je tiens dans l'interview. J'en dirai pas plus pour l'instant. Allez. À la semaine prochaine, que Dieu nous garde.